soir par Daniel Amiche. Bonne soirée, vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Serge Debeketch, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, assisté de Victoria. Cette émission est diffusée en direct le 3 octobre de 18 à 21h, en différé le 4 octobre, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Bonsoir, chers amis auditeurs qui nous faites l'amitié de nous rejoindre ce mercredi 3 octobre en direct pour cette première partie d'émission. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Daniel.
Pour cette première partie d'émission, parce que la seconde partie, je vais commencer par la fin, tiens, je vais commencer par la seconde partie de l'émission puisqu'elle a été enregistrée. Alors je présente toutes mes excuses aux auditeurs parce que je leur ai menti mercredi dernier. Mercredi dernier, je leur ai dit qu'on aurait une émission sur le Liban en disant qu'elle avait déjà été enregistrée. J'ai menti. J'ai menti parce qu'elle a été enregistrée le lendemain du jour de l'émission, tout simplement pour des questions de sécurité, pour un des invités qui nous a fait l'amitié de venir à Radio Courtoisie, puisque en seconde partie d'émission, à partir de 19h30, vous écouterez bien sûr notre ami Richard Haddad, qui est bien connu de nos amis auditeurs, qui est éditeur et directeur des éditions Godefroy de Bouillon, mais surtout, vous entendrez beaucoup de commentaires extrêmement intéressants de Sami Gemayel, qui est responsable des jeunes des Kataeb au Liban et qui est également le fondateur du mouvement Lubna Nouna. Et vous allez voir que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et il a beaucoup, beaucoup de choses à nous dire. Alors je rappelle pour nos auditeurs qui l'auraient peut-être oublié ou ceux qui ne le sauraient pas ou qui ne s'intéressent pas directement au Liban que Sami Gemayel est le fils de l'ancien président Amin Gemayel, qui est toujours vivant, qui vient de rater d'ailleurs pour quelques centaines de voix à la réélection comme député, qui est actuellement des grands mouvements politiques, même géopolitiques au Liban, puisque le président de la République doit être réélu, et qu'il est élu non pas au suffrage universel, mais par les députés, donc c'est très, très important, que Sami est donc le neveu de Béchir Gemayel, qu'on a beaucoup apprécié, qu'on a beaucoup connu, qui a été le grand résistant du camp chrétien pendant les années si difficiles de l'existence du Liban, elles sont encore aujourd'hui très très difficiles, qui avait lui aussi été élu président de la République, et puis qui a été assassiné par les services d'un pays étranger frontalier, plutôt au nord d'Israël, j'essaye d'être prudent, et que Sami est également le frère de Pierre Gemayel, qui a été assassiné il y a peu de temps aussi, par les services d'un pays étranger, voisin de l'État libanais, plutôt au nord. Voilà, c'est tout ce que je n'en dirai pas plus, parce qu'après on va avoir des procès, des machins, puis on sait jamais aussi, peut avoir une bombe sur mon paillasson, mais enfin il n'y a pas de paillasson chez moi, donc ils ne pourront pas le mettre dessous, je le verrai tout de suite en arrivant. Ça, ce sera pour la seconde partie de l'émission qui a donc été enregistrée. Alors, par avance, toutes nos excuses auprès de nos éditeurs, puisqu'ils ne pourront pas, évidemment, téléphoner pendant l'émission, mais évidemment, comme il est d'usage sur Radio Courtoisie, leurs messages, leurs lettres, leurs encouragements seront les bienvenus. Pour cette première partie de l'émission, eh bien, je remonte du dernier intervenant jusqu'au premier. Notre ami Jean-Paul Chéric de Olmeta est là. Bonsoir, monsieur le marquis.
Bonsoir.
Très heureux de voir, vous êtes venu nous nous parler ce soir du prochain numéro du Libre Journal de la France Courtoise de Serge de Bekech, qui va paraître, qui paraît là, il est imprimé.
Qui a été bouclé aujourd'hui.
Il va partir demain.
Ça part demain.
Les auteurs devront à la fin de la semaine. Donc vous allez nous dire un peu ce qu'il y a dedans pour titiller un peu les papilles de nos amis auditeurs. Et puis également, on dira quelques mots, si vous voulez bien, de votre dernier ouvrage dans le temps, parce qu'il y en aura un autre derrière de toutes les manières, qui a été publié chez notre bon camarade Benoît Mancheron via Romana, qui s'appelle L'homme à table.
Voilà.
Ce qui est un joli programme.
Oui, oui, bien sûr. Mais
c'est un joli programme.
C'est très important. C'est le carburant.
Voilà, puis vous pourrez intervenir également pendant les autres séquences émissions. Alors, remontons un petit peu, on aura vers 18h30, quelque chose comme ça, Bruno Larobière, qui est le rédacteur en chef du Choc du Mois, également journaliste à Minute, pour nous parler du dernier numéro du Choc du Mois, et aussi de quelques informations exclusives que j'ai trouvées dans le dernier numéro de Minute, là, qui est pas encore en kiosque, il sera à partir de demain, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est à partir de jeudi, des choses très intéressantes sur monsieur Nicolas Sarkozy, un de ses fils. Vraiment très très intéressant. Et pas celui qui fait de la pétrolette à pétrole, là, c'est très très intéressant, vous verrez. Et puis, premier invité de cette première partie, j'ai pas voulu faire durer le suspense, mais je crois que sa présence ce soir est vraiment importante et utile, non seulement pour l'affection qu'on lui porte depuis des années dans cette radio et notamment dans ce Libre Journal, mais aussi pour l'affection, ça je peux en témoigner moi-même, on pourra me couper la tête, mais je dirais, de l'affection que Serge Bekech lui porte depuis des années et des années et des années. Il s'agit du révérend père Jean-Paul Arguarche, bien connu de nos amis auditeurs, et pas seulement des auditeurs, puisqu'il peut se trouver des amis d'Arguarche qui ne sont pas auditeurs d'Harold Courtoisie, ce qui est un scandale entre nous, mais enfin, voilà. Alors, il se trouve que le révérend père Arguarche est, peut-on dire, au chevet de Serge depuis dimanche dernier, depuis malheureusement qu'un nouvel incident l'a fait sortir de la salle de l'hôpital où il était, d'ailleurs avec quelques compagnons de douleur et de maladie, mais au moins il y avait une présence humaine, c'est mieux que d'être tout seul. Et malheureusement, son état de santé a nécessité qu'il soit transporté dans un autre service de cet hôpital spécialisé, un service où les soins sont, disons, un peu plus intensifs. Quand ce n'est pas exactement ça, enfin disons, c'est à peu près ça. Et le révérend père Arguarche est bien avec lui depuis dimanche, le matin, le midi, le soir et jusque tard dans la nuit, depuis 4 jours. Aujourd'hui, il fallait malheureusement qu'il remonte là-haut, dans le nord, hein, parce qu'il a aussi des activités et il a dû quitter notre ami Serge un peu plus tôt qu'il l'aurait sans doute souhaité. Et Serge, et le père Arguarche. Et je tenais d'abord, mon père, à vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites en général et ce que vous faites en particulier pour Serge, ce qui nous va droit au cœur, et puis en même temps que vous donniez quelques informations, comment l'avez-vous trouvé, voilà.
Serge est donc en réanimation, c'est vrai qu'il est très seul dans la journée, il ne peut pas voir ses chers amis, même sa famille ne peut que venir le soir, puis moi-même j'ai ce sésame qui est ma bure. Et j'avoue que personne m'a jamais rien dit. Je suis arrivé sans dire bonjour à personne, parce que personne m'a adressé la parole. Et j'ai pu passer auprès de toutes ces infirmières et même ces médecins.
Vous êtes comme notre Seigneur Jésus-Christ après la résurrection, il traversait les murs sans qu'on ouvre les portes.
Et j'avais l'impression, je ne suis pas notre Seigneur Jésus-Christ, pourtant
Saint-Pierre aussi.
Comme prêtre, on doit essayer de l'imiter, et on l'est vraiment au moment des sacrements d'ailleurs. Mais ça me donnait une étrange impression que du pouvoir de l'Église catholique, notre mère, non seulement auprès des malades, mais même partout où je suis passé, j'ai plein de petites histoires à raconter, que je ne raconterai pas aujourd'hui, de dizaines et dizaines de personnes, ça va de la petite fille qui me traitait de Ben Laden tout à l'heure, et puis je lui disais, mais non, je ne suis pas Ben Laden, et puis je suis prêtre catholique, de celui qui me disait, tiens, c'est le pape, et puis, alors partout je vais voir les groupes pour leur parler, et puis aussi de ceux qui sont musulmans, qui me demandent mes prières, enfin, et puis aussi de toutes ces africaines qui me disent, bonjour mon père, alors que énormément d'autres personnes ne reconnaissent pas mon habit. Tout ça, c'est pour parler un petit peu en préambule, parce que c'est difficile d'attaquer ce sujet directement. Serge va mal, il va très mal, et il faut lui tenir la main, et il est conscient de tout ce qui lui arrive. De temps en temps, il dort, mais d'un seul coup, il se réveille avec une lucidité, il vous transperce avec ses yeux, c'est vraiment incroyable de voir combien il affronte la maladie comme un soldat. Mais vous savez, un soldat, c'est quelqu'un qui veut être debout. Et tout à l'heure, il me disait « je veux me mettre debout ». Or, je ne donnerai pas trop de détails, mais au moins celui-là, il est lié. Il est lié sur son lit et ne peut pas se mettre debout. Et Serge est un homme debout. Et même si c'est un homme qui sait s'agenouiller, c'est un homme debout. Et ça, ça doit être très dur pour lui d'être prisonnier sur son lit de souffrance comme un lit d'agonie. Et puis, Serge m'a dit qu'il voulait donner un message. En fait, c'est moi qui lui ai dit « Est-ce que vous avez quelque chose à dire tout à l'heure à Radio Courtoisie ?» Daniel Amiche m'a téléphoné. Et alors, il m'a dit « Non, rien, rien. » Et puis, après, je lui ai dit « Mais vous voudriez pas dire un petit mot quand même ?» Et alors, du genre « Et puis, vous me direz oui. » Alors, je lui ai dit « Voilà ce qu'il faut dire. » Parce que quand on est malade comme ça, d'abord, il a du mal à parler. Parce que la respiration devient de plus en plus difficile. Et donc, il a du mal à projeter l'air pour parler. Parce que pour parler, il faut projeter de l'air. Et alors, il dit « Je suis au combat contre la maladie. Je ne vous oublie pas. Je pense à vous tous, à tous ceux que j'aime. » Et il m'a fait un grand sourire. Je pense que j'ai traduit sa pensée parce que Serge, il n'a pas besoin de parler. On connaît ses sentiments. Comme tous les Slaves, ça transparaît, ça respire. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et puis à un autre moment, pendant ces jours difficiles, je lui disais au creux de l'oreille, vous marchez au pas lent, au pas de la Légion, mais vous allez vers la victoire. Pour lui dire qu'il faut aussi qu'il soit patient. Ça c'est vrai que tout peut pas se guérir d'un seul coup. Et puis il y a tout ce qui est pas prévu aussi dans son état. Et alors tout à l'heure aussi, je me disais, il faut faire une prière avant de partir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et puis j'ai pensé à la prière du Père de Foucault. Enfin, je vous salue Marie. Alors cette prière, je l'ai pas dite en entier, mais je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie, j'accepte tout. Et il faisait oui aussi avec sa tête, parce que je pense aussi qu'il se rend compte de son état et que vraiment, dans le fond de son âme, bien sûr, il a eu les sacrements qu'on appelle les onctions extrêmes, l'extrême onction, les onctions extrêmes, toutes ces petites croix qui sont faites sur le corps et sur tous les sens. Et je crois qu'il d'ailleurs, il m'a dit plusieurs fois, cette maladie est une grâce. Et j'ai vraiment des moments exceptionnels et je suis heureux au fond que cela m'arrive parce que ça m'a permis de faire le point sur beaucoup de choses. Alors voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je ne donnerai pas de détails sinon qu'il faut prier beaucoup pour lui. Il y a déjà des messes qui sont dites. Par exemple, dimanche dernier à Riomont, à la grand-messe, le père Alain a évoqué Serge et tout le bien qu'il a fait pour le village d'enfants de Riomont. Il a même dit que c'était le héros, donc le messager et le défenseur fidei, défenseur de la foi et en même temps des œuvres catholiques. Il n'y a pas que celle de Riomont. Et en fait, il y avait les Louveteaux, les Louvettes, les scouts, les guides. Et c'était une grand-messe magnifique. C'était la solennité de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'était superbe. Donc, un miracle, voilà, il faut demander un miracle au bon Dieu, il peut le faire, il peut prendre Serge à tout moment, mais aussi il peut faire un miracle. Alors voilà, vous m'avez écouté, on a besoin d'une prière forte, non seulement pour lui, mais pour tout ce qu'il représente, parce que Serge est une voix à la radio, c'est une voix dans les conférences, c'est une voix aussi dans son journal, et tout cela, et ça reste et restera toujours, de toute façon, ça traverse l'histoire, et en même temps, on a besoin aussi de son amitié, on a besoin de le sentir à nos côtés, et ça, c'est très important de sentir qu'il y a aussi cette présence invisible. Il y a le visibilium et l'invisibilium. L'invisibilium, c'est magnifique. C'est le corps mystique du Christ. Alors, bien sûr, il y a ceux qui sont des militants, qui sont comme nous, comme lui, militants souffrants, Et puis il y a ceux qui sont en purgatoire et ceux qui sont au ciel. Et si un membre souffre, nous devons souffrir avec lui. Serge souffre, il faut souffrir avec lui. Et voilà. Et je pense beaucoup à Daniel, à son épouse, et à Imric, et à Cyril, aux enfants, aux petits-enfants, et voilà, qui sont atterrés, qui sont dans une période de traversée du désert épouvantable. Et donc il faut aussi prier pour eux, pour Daniel qui est à ses côtés et qui est là sûrement en ce moment tout près de lui pour l'encourager, pour lui tenir la main. Voilà, donc il faut pas être pessimiste parce que nous avons la foi. Et donc, quand on a la foi, eh bien, nous ne sommes pas, dit l'Église, comme ceux qui n'ont pas la foi, justement. Et donc, cette foi nous transporte, elle transporte même les montagnes. Demandons au Christ ressuscité beaucoup de force pour Serge, pour aller jusqu'au bout de ce chemin, et que le Seigneur nous le garde le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout ce que nous lui demandons. Daniel, vous m'avez demandé de parler, et j'en suis très ému.
Merci beaucoup.
Et je ne veux pas ajouter plus. Sinon que quand Serge dit « je suis au combat contre la maladie », et nous aussi nous sommes au combat, et le vrai combat, dit saint Paul, c'est aussi le combat de la foi. Malheureusement, cela passe aussi par les souffrances, et nous pouvons voir qu'un visage, celui du Christ souffrant sur la croix, de l'agonie au jardin des Oliviers, le Christ qui voit toutes ces souffrances. Et si nous passons à travers l'histoire, nous passons grâce à la rédemption, au rachat des péchés et à la souffrance du Christ, alors qu'il garde Serge le plus haut possible comme un étendard qui flotte toujours dans le vent de France. Merci.
Il flottera toujours, en tous les cas, quoi qu'il en soit. Sa mémoire ne risque pas de s'éteindre avant longtemps. Mais n'en parlons pas comme d'un mort. Il est encore vivant. Il est encore avec nous.
Il est toujours là. Mais le prêtre est toujours là pour dire aussi tout peut arriver. Voilà. Bon, il est en survie. Et la survie peut durer extrêmement longtemps. Voilà. Et ça dépend aussi de notre prière, je crois.
Ça dépend de la prière. Ça dépend de la prière. Si c'est pas indiscret, mon révérend père, vous le connaissez depuis combien de temps, Serge?
Je le connais depuis toujours, parce que, mais je crois qu'on a vraiment fait connaissance à Chiré en Montreuil. Parce que Serge cherchait un endroit pour envoyer son fils Émeric, et il a trouvé d'abord le frère Olivier. Et puis le frère Olivier m'a indiqué, heureusement on est reconnaissable avec nos bures, et c'est comme ça que j'ai aussi eu une grande joie à Chiré, c'est de présenter mon père à Serge de Becquet, qui est un ancien combattant d'Indochine et d'Algérie française, et ce fut un grand moment pour moi. Alors je sais pas, ça fait peut-être 20 ans, je ne me rends pas compte, les années passent très très vite maintenant.
Bon, on le connaît tous depuis un bout de temps. Et vous, mon cher camarade Jean-Paul, vous connaissez depuis six mois quand même.
Bien un peu avant la naissance de Radio Courtoisie, donc ça doit faire 17 ans, 18 ans, 19, je ne sais plus, mais enfin...
La radio est écrite en 87.
Non, j'ai dû le connaître avant.
Avant, oui, moi aussi, je l'ai connu, je crois que c'était en 86 j'ai dû le rencontrer pour la première fois.
Dans ces eaux-là aussi, et nous, c'est une rencontre alors extrêmement curieuse, c'est à travers la franc-maçonnerie. Alors, où j'avais rouspété auprès de Jean Ferré, en disant, enfin, mercredi, il y a un type, là, je sais pas qui c'est, qui tape sans arrêt sur la maçonnerie, puis d'une façon qui est pas toujours très, même historiquement, bon, moi, ça me gêne parce que je suis franc-mac, je suis catholique, et puis bon, ça va très bien avec la Grande Loge nationale de France. Et alors, Ferré, qui est quand même un vrai journaliste, dit, oh, là, il y a un coup à faire là-bas. Et il m'a fait venir dans le studio, j'ai raconté mes histoires, etc. Alors, ils ont fait un duplex tous les deux, ça. Et puis, un jour, j'ai rencontré Beckett, j'ai dit, voilà, je suis le franc-mac de Jean Ferré. Et il m'a dit, faut plus que vous soyez franc-mac, c'est pas bien, et je ne suis plus franc-mac.
C'est pas bien. Voilà, c'est comme alors, ça discute.
On peut dire aux éditeurs, c'est pourquoi quand nous faisons une émission ensemble, de temps en temps, quand il me dit, vous avez quelque chose à dire, oui, et j'ai dit, vénérable maître, c'est le clin d'œil. Voilà.
Bon, il est encore avec nous. Le bon Dieu peut nous le garder. C'est le bon Dieu qui décide. C'est lui qui va décider de toutes choses. Il décide pour nous, il décide pour lui, il décide pour tous. Évidemment, si c'est un effet de sa bonté, on aimerait le garder un peu, notre Serge, pendant encore quelques temps, parce que c'est pas un vieillard tout de même, hein. Il a pas 62 ans, donc vraiment, c'est encore un jeune homme, on peut dire. Bon, on aimerait le garder parce que c'est un combattant. Et des combattants de cette trempe, de cette qualité, de ce talent, de ses talents, hein, talent oratoire, talent de plume, talent de cœur aussi, talent de coup de gueule, bon bah oui, très bien, bon, je sais qu'il ça peut pas plaire à tout le monde, enfin moi ça me plaît bien, moi j'aime bien, je sais pas le faire, donc je suis toujours admiratif du talent que j'ai pour, évidemment, par définition, mais il est irremplaçable,
c'est formidable. Serge a un extravagant, ouais. C'est un humour qui va très très loin, qui peut sauver des situations, qui peut arranger des coups, c'est quelqu'un qui sait rire, et ça c'est très important.
J'ai reçu un message pas très agréable, enfin pas oui, moyennement agréable d'un auditeur, malgré toutes les informations que je donne depuis le début du mois d'août, pour la raison pour laquelle je suis ici, enfin j'étais ici même quand ça, j'étais pas malade, quand il était en vacances, non, je suis sur le remplaçant, alors je suis là, bon voilà, bon. Il faut bien, alors, évidemment, Daniel Amiche, c'est pas Serge Becket, c'est réciproquement,
bon.
Alors, le monsieur se plaignait du fait que c'était trop, des émissions qui étaient trop catholiques, on reparlait toujours les mêmes choses, mais du poids prio, machin truc, ce qu'il nous faudrait, c'est pas l'émission de Becket, monsieur, je sais que c'est pas l'émission, je suis incapable de faire une émission comme Becket, je suis incapable, je sais pas faire, bon. Alors, j'essaye d'être drôle, facétieux, d'intéresser, je fais ce que je peux, mais je n'ai pas le talent de Serge. Et, le problème, c'est quand je m'interroge, de savoir qui serait susceptible de remplacer Serge.
Ah non, ça, on peut
trouve pas, je trouve, j'ai en tête, je le dirai pas ici pour ne vexer personne, et surtout pour ne pas en flatter d'autres, je vois j'ai quelques noms qui me passent par la tête de gens vraiment, okay. Mais ce sera pas, c'est pas Serge Becket. Alors qu'on me demande pas à moi de faire du Serge, c'est pas faire. Je suis désolé, j'ai pas appris, je suis pas allé à l'école.
Il fait du Becket, voilà, bon, et puis c'est tout.
On n'est pas passé par
l'école. C'est un style particulier, et on peut toujours dire aux auditeurs que quand quelque chose les dérange dans l'émission, si c'est pendant 3 heures, c'est grave. Oui. Mais bon, il y a un truc qui s'appelle le bouton.
Ah oui, oui, bien sûr. Mais oui, mais alors le monsieur disait, puis dans le post-scriptum, ne nous dites pas qu'il faut changer de truc. Bon, ça nous l'avait déjà fait. C'est agréable. Ça, alors, donnez-vous du mal, hein, franchement. Bon, mon révérend père.
Un auditeur nous dit, c'est aujourd'hui, selon l'ancien calendrier, la fête des 13 saints anges gardiens.
Oui, c'est vrai, c'est les anges gardiens. Bah, alors raison de plus, hein, priez vos anges gardiens pour qu'ils aillent discuter un peu le coup avec l'ange gardien de Serge, qui doit en avoir deux, à mon avis, de voir son normal, et puis comme journaliste, je pense qu'on en a un second. Non, vous voyez pas, non. Peut-être un spécial.
Il y en a
des anges gardiens.
Et un autre nous dit, Victoria. Je vais prier demain à Saint-Georges. À 19h.
Très bien. Bah oui, demain, il y a la messe Saint-Pie V du cher abbé Blin.
Non, l'abbé Blin.
Hubert Blin. Oui, non, mais c'est Hubert Blin, un homme vraiment adorable et qui a décidé. Alors lui, il a décidé, il est bien, ce curé de paroisse, hein, Saint-Georges de la Villette. Oui. Il a décidé, motu proprio, il faisait la messe de Saint-Pie V le jeudi soir. Ce qui n'enlève rien parce qu'il ne change pas une messe, il n'avait pas de messe le jeudi, et ça rajoute. C'est très bien. Alors au début, non, la première fois qu'il l'a fait, c'était le jour d'exaltation de la Sainte-Croix, le 14 septembre. Il y avait quand même un petit peu de monde, je dois dire. Bon, après, on a eu un peu moins. C'est normal. C'est les gens après du quartier, les paroissiens qui viennent. Et puis on aura petit à petit, ben ça va. Les choses vont s'installer comme ça. Voilà. Eh bien, mon révérend père, je vais vous laisser parce que là, je sais que vous êtes. Et je le vois, hein, vous êtes fatigué de cette épreuve que vous avez vécue pendant 4 jours avec Serge. Et vraiment, on vous en doit une reconnaissance, non pas éternelle, hein, parce que ce serait un peu ambitieux. Mais enfin, croyez-moi, on ne vous oubliera pas non plus dans nos prières, pas plus qu'on oubliera Serge, pour tout le bien que vous lui avez apporté. Maintenant, vous allez remonter au village d'enfants de Riomont. Enfin, d'ailleurs que je...
Prudemment.
Il m'a promis, hein. Oui. J'ai dit attention, parce que les curés, ce sont des catastrophes ambulantes.
Non, c'est pas toujours vrai. Oh, on a cette réputation-là parce que certains, effectivement, se sont plantés ou s'en vantent, malheureusement. Mmh. On n'a jamais à se vanter de ces choses-là. Mais bon, ça peut arriver si, justement, on va voir un mourant, oui, pouvoir aller plus vite. Mais il y a un motif. Autrement, non, on risque de tuer quelqu'un et on est plus responsable encore comme prêtre. Non, ne vous inquiétez pas, je rentrerai à la vitesse normale vers le petit village qui résiste. Merci.
Qui résiste pour de bon. Et puis, vous reviendrez nous voir tout bientôt. Hein, on va se reparler parce que il y a le livre, là, toute l'histoire que vous avez, c'est un livre absolument magnifique.
Bah, je voulais en parler justement avant que le père parle.
Ah ben bah oui, on a encore quelques minutes.
Je voulais simplement dire, surtout n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire le bouquin du père.
Mais tout à fait. Tiens, on va redonner l'adresse de Riomont, parce que je suis venu ici comme un andouille. C'est la boîte postale, boîte postale, vous qui savez tout.
Mon village d'enfants de Riomont, BP 28.
On va, oui.
62-801.
Liévin-Cédex. Alors donc, village d'enfants de Riomont,
oui.
Boîte postale 28, 62 801, Liévin, Cedex.
Ben, tu vois, ça, tu le fais mieux que Serge.
Ah bon ?
De donner les adresses.
Ah oui, mais il faut donner des adresses. Faut tout le temps. Ici, nos auditeurs, je pense que c'est la seule radio au monde qui donne autant de numéros de téléphone et d'adresses. Je crois qu'il y a Radio Courtoisie qui fait ça, parce que quasiment on en donne 12 par heure. Mon révérend père.
Juste une dernière chose, je ferai une conférence à Versailles, à la salle Montgolfier, mais j'ai pas encore la date, ça sera début novembre.
Bah, faut nous le dire.
Et parce que beaucoup de gens demandaient si j'allais parler à propos de ce livre.
Oui.
Donc, monsieur de la Suisse m'a invité, avec la Wanda et je sais plus qui. Et donc, on donnera la date, ce sera début novembre, un lundi soir sans doute. Voilà.
Alors.
On vous donnera la date.
D'accord. Faudra le me dire le plus tôt. Parce que si on pouvait, oui, parce qu'il faut qu'on parle aussi faut qu'on parle de ce bouquin-là qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, vous en avez déjà parlé sur Radio Courtoisie, vous avez été invité au livre journal des scouts, il me semble.
Oui, c'est surtout Philippe Maxence.
Et Philippe aussi vous a reçu là-dessus. Philippe Maxence.
Il m'a interviewé, oui.
Très belle personne. Bah, vous reviendrez.
Il y a eu.
Ah, bah, oui, quand même.
C'est la moindre des choses.
Mais vous reviendrez nous en parler, hein.
Oui. Le titre, s'il vous plaît.
Alors, c'est Riomont, Passion et Résurrection.
Riomont, Passion et Résurrection, c'est aux éditions.
Alors, c'est à Via Romana.
Via Romana, chez l'excellent camarade.
À la librairie du Petit Pont.
Voilà, chez l'excellent camarade Benoît Manchon.
On peut encore avoir des exemplaires numérotés à la librairie du Petit Pont ou au village d'enfants de Riomont.
C'est un très beau livre, hein, parce que non seulement le texte est très intéressant, mais également il y a beaucoup d'illustrations. C'est un livre avec des images.
Et les exemplaires numérotés sont sur un velin, sont sur un papier meilleur que les autres.
Ah là là, bon, enfin, nous en reparlons de tout ça. Merci encore, cher révérend père, d'être venu ce soir, malgré votre fatigue et malgré tous vos efforts. Merci de tout ce que vous faites. Et puis, on va se revoir bientôt. Et on va essayer de suivre vos enseignements. Merci beaucoup, à très bientôt. Et soyez prudents sur la route. Alors, en attendant qu'on appelle notre prochain intervenant, Jean-Paul Chéric de Olmeta dit le marquis, pas du marquis, c'est le marquis quand même. Je dis le marquis parce que voilà, c'était devenu une espèce de blague.
Chez nous, c'est devenu comme une marque.
Oui, c'est une espèce de marque, tout à fait. C'est le marquis.
C'est rigolo.
Alors, nous allons nous entretenir avec. Nous allons nous entretenir avec vous très très bientôt d'un beau petit livre, curieusement écrit. Enfin, la composition, c'est uniquement des lettres anglaises, comme on appelle ça, des scripts anglaises. Alors, qui s'appelle L'homme à table, publié Via Romana. Et puis nous allons aussi parler donc du prochain numéro du Libre Journal de la France Courtoise, qui sera le numéro 445.
Donc, c'est 415.
Moi je dis à l'envers et de loin, donc voilà, mes yeux ne sont plus ce qu'ils ont été, hélas. Alors en attendant que notre prochain invité se manifeste, donc il s'agit bien sûr, je l'ai annoncé tout à l'heure, de Bruno Larobière, qui est le rédacteur en chef du Choc du Mois et qui est journaliste à Minute. Nous allons parler à la fois du mensuel qui vient de paraître. Et bien voilà, on me signale. C'est ça qui est absolument admirable. Alors vous pouvez chausser vos casques, si vous voulez. Attention à la pointe, mettez-la pas, comme disait Beckett, mettez-la dans le bon sens pour pas vous transpercer le crâne. Est-ce que Monsieur Bruno Larobière est au téléphone ?
Je suis là.
Eh bien mon cher Bruno, je vous salue. Merci de vous joindre à notre émission de ce soir pour deux choses d'ailleurs, parce que je vous ai présenté comme rédacteur en chef du Choc du Mois, ça maintenant c'est universellement connu, mais également comme journaliste à Minute, ce qui est un peu moins connu, et comme j'ai eu le tout à fait la curiosité de lire en PDF, comme on dit dans les milieux techniques, il n'y a rien d'obscène, hein, voilà, le Minute qui sera demain dans les kiosques,
qui est aujourd'hui,
qui est ce soir dans les kiosques, moi j'ai lu ce matin et j'y ai vu des choses extrêmement intéressantes. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un peu du dernier Choc du Mois. D'ailleurs, je signale à nos auditeurs que c'est le numéro 15. C'est-à-dire que ça fait presque un an et demi, oui, à peu près, presque un an et demi, que ce nouveau Choc du Mois, la nouvelle série, a été relancée par vos soins et ceux d'un autre groupe de complices. Alors, ce numéro 15... Voilà, par exemple, Jean-Marie Molitor. Et d'autres personnes de Stacabi. Alors, le numéro 15, septembre 2007... Et dans les kiosques depuis quelques jours déjà.
Oui.
Depuis la semaine dernière, pour tout dire. Et il traite, alors le thème principal, le dossier principal de ce numéro, c'est le capitalisme est-il contre les peuples ? Alors est-ce qu'il est contre ou tout contre les peuples ?
Il est contre. La réponse est clairement oui.
Alors expliquez-nous ça, parce que c'est un thème très intéressant, parce qu'on a l'impression, vous n'êtes pas des anticapitalistes forcenés, pourtant vous n'êtes pas des socialistes au Choc du Mois, l'idée, non ?
Effectivement, je lis
récemment
un débat qui a eu lieu il y a quelques années entre Laurent Geoffrin et Éric Brunet. Laurent Geoffrin était à l'époque au Nouvel Obs, il est aujourd'hui directeur de la rédaction de Libé. Éric Brunet, journaliste à France 3, et a écrit un livre, Être de droite, un tabou français. Et Brunet expliquait que être de droite était extrêmement difficile, et notamment dans les médias et plus généralement s'afficher comme tel dans la société, présenter des problèmes. Et Geoffrin lui répondait, mais enfin vous rigolez, vos idées ont triomphé partout, y compris au Parti Socialiste. Tout le monde aujourd'hui est de droite, tout le monde aujourd'hui est libéral. Et je crois que là on est au cœur.
Allez, oui,
le problème est de la question cœur, là. Que vous me posez, c'est que voilà, une idée communément admise veut que si on est de droite, on est forcément défenseur du système capitaliste, on est forcément favorable d'un ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme,
qui est encore.
Alors que nous estimons, nous, en tout cas, nous nous situons dans une tradition de la droite française qui a toujours été extrêmement méfiante à l'égard du capitalisme, pour ne pas dire extrêmement hostile à son développement depuis le 19e siècle. C'était le cas, pour citer les plus connus, de Frédéric Leblay, oui. De La Tour du Pin, qui dénonçait déjà d'ailleurs les délocalisations à l'époque.
Déjà, mais oui, c'était au 19e siècle.
Ne date pas d'aujourd'hui.
Signale, vous permettez, Bruno, que je vous interrompe une seconde pour signaler justement que dans ce numéro, dans ce dossier que vous avez fait, il y a moi, une chose qui me ravit à plus d'un égard. Il y a un très bon papier d'Hervé Bizien qui s'appelle surtitré un combat toujours avec les ouvriers. Premier titre, le vrai titre, la vraie droite française contre le capitaliste. Et ce sont tous ce qu'on appelle les catholiques sociaux, qui étaient tous des royalistes d'ailleurs, soit dit par parenthèse, bon, qui ont pris vraiment fait et cause. Et on en a quelque chose avec la lettre sur les ouvriers du comte de Chambord, hein, qui ont pris très très tôt. Sous la Restauration, dès Charles X, c'est quand même invraisemblable, qui ont pris fait et cause pour ce prolétariat, cette classe ouvrière qui allait devenir tellement vraiment tellement exploitée pendant la révolution industrielle anglaise, française et universelle. Alors félicitations pour ce très bon papier.
Et ben, je lui transmettrai. Et effectivement, aujourd'hui, pour reprendre la distinction de René Raymond, où la droite orléaniste est au pouvoir, elle étouffe absolument toutes les autres droites, et notamment celle qui s'est toujours inscrite dans un combat effectivement lié à la doctrine sociale de l'Église, lié tout simplement à du bon sens, qui veut qu'il n'y ait pas que le profit ne soit pas la valeur absolue, qu'il y ait des valeurs supérieures à celles du profit. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être de gauche, et c'est vrai que c'est un peu agaçant de s'entendre dire à chaque fois vous dénoncez le capitalisme, vous dénoncez les dérives du capitalisme, donc vous êtes de gauche, donc vous êtes socialiste, donc vous tenez le même discours que Besancenot. Évidemment pas. Je suis bien convaincu que nos vies valent plus que leurs profits, mais j'estime que Besancenot est assez mal placé pour défendre ce slogan-là dès lors qu'il reste dans une logique purement matérialiste.
C'est clair, oui.
Et que tant qu'on ne sortira pas de cette logique matérialiste et qu'on ne mettra pas au-dessus ce qui doit être au-dessus, c'est-à-dire bien sûr en premier les valeurs spirituelles et ensuite les valeurs culturelles, on ne pourra pas efficacement défendre les hommes contre ceux qui les exploitent. Il faut bien utiliser le terme. Oui, l'exploitation existe.
Elle est même maintenant avec
elle découle même de son renforcement découle même de mai 68. Il y a un excellent article à ce sujet dans ce dossier. L'atomisation de la société qui a découlé de mai 68, l'individualisation extrême, la disparition de l'État, la disparition de tout ce qui était les protections naturelles, fait que le capitalisme a eu le champ libre pour s'emparer de tout et pour se déployer absolument partout.
Individualisation et mondialisation sont les deux mamelles du néolibéralisme.
Oui, tout à fait.
En quelque sorte.
Et donc, les peuples et les nations et la défense des identités des deux et la reconstruction des deux peuvent faire barrage à cette toute-puissance de l'argent.
Alors, il y a également un superbe entretien avec Maurice Allais, qui est le prix Nobel français en économie. On n'en a pas tant des prix Nobel, et surtout prix Nobel économique, on n'en a quand même pas tant que ça, qui a eu en 1988, je crois qu'il a eu le prix Nobel d'économie. Ouais. Et là, est-ce que vous pourriez nous dire un peu qui c'est ce Maurice Allais, qu'on entend quand même relativement peu, je dois dire, hein. C'est quand même invraisemblable.
C'est un vrai scandale.
C'est vraiment...
Ça, c'est un vrai scandale. Maurice Allais, donc prix Nobel d'économie, on en a, comme vous le dites, très peu, qui est aujourd'hui un vieux monsieur, il a passé les 90 ans, ne peut s'exprimer à peu près nulle part.
Oui.
De temps en temps, il a le droit à une chronique, à une tribune,
sur le Figaro.
Figaro. Voilà, il est, comme il n'est pas dans l'économiquement correct, il est un homme plutôt de droite, oui. Je ne le connais pas personnellement, enfin en tout cas ce n'est pas un marxiste, il n'a pas d'espace où il peut s'exprimer aujourd'hui, contrairement à d'autres personnes qu'on a interviewées, comme le couple Passon-Charlot, qui eux sont des marxistes, et qu'on entend sur France Inter, qu'on voit dans Le Monde, etc. Lui est dans la position dans laquelle nous sommes, d'ailleurs, qui lui donne très peu de tribune. C'est une critique de droite de ce qu'il appelle la spéculation frénétique et fébrile. C'est une critique de droite de la mondialisation qui ne profite qu'aux multinationales et qui ne profite qu'aux actionnaires. Le problème de fond, c'est que déjà au départ, il y a un vice matérialiste, disons, dans le capitalisme, mais qu'on est en plus passé d'un capitalisme entrepreneurial un capitalisme purement financier, et que dans ce capitalisme financier, seul compte la rentabilité immédiate, d'où l'extrême volatilité des capitaux, d'où les plans sociaux, il faut que ça rapporte 15%.
Voilà.
On investit, et qui investit? Évidemment, majoritairement des fonds de pension anglo-saxons. Dans un article, j'écrivais que plus de 40% des entreprises, du capital des entreprises cotées au CAC 40 sont entre des mains étrangères. J'ai reçu aujourd'hui une note de la Banque de France qui actualise le chiffre. Nous en sommes à 46,2% au 31 décembre 2006. Ce qui veut dire que les grandes entreprises françaises, ça n'existe plus, très clairement. Le patriotisme économique, c'est un concept intéressant, que Fillon a enterré d'ailleurs très vite. C'est un concept intéressant, mais qui ne repose pas sur la réalité, puisqu'il s'agit de faire prévaloir les intérêts de firmes qui sont françaises dans les esprits, mais dont le capital n'est absolument plus français.
Elles gardaient encore des noms à peu près français, mais maintenant même c'est plus vrai, parce que vous avez des Altadis, Catadis, Ratadis, Matadis, Bitadis, enfin vous avez toutes sortes de noms qui sont des noms qui ne sont même plus français. Enfin,
ouais,
L'Oréal avait un petit, voilà.
Il y a une mode dans les boîtes de communication de leur donner ce type de nom.
C'est pour la mondialisation en fin de compte, hein. C'est pour créer des marques mondiales qui soient des marques, voilà. que tout le monde puisse comprendre et puisse à peu près annonner dans son sabir local, quoi. Voilà, c'était ça l'histoire.
Ces sociétés-là, pour beaucoup, et ça on l'ignore, y compris même si vous regardez d'un peu près France Télécom, la SNCF, oui. Des vraies sociétés françaises.
Ah, oui.
Qu'est-ce que vous découvrez? Que France Télécom, la SNCF, la Poste sont plus dans leur mur.
Oui.
Que le siège de France Télécom n'appartient pas à France Télécom, il a été externalisé. C'est l'expression, c'est le terme employé aujourd'hui. On procède à l'externalisation des murs. En clair, on vend son siège social, on vend ses locaux, évidemment toujours à des banques, à des fonds de pension qui en veulent une rentabilité maximum, et on devient locataire. Donc on n'a même plus la possession si française de la pierre, de ces murs qui donnent cette sécurité. Au moins, on est chez soi. S'il arrive quelque chose, on se replie chez soi. Ben non, s'il arrive quelque chose, on peut pas payer son loyer, on prend la porte.
Oui, tout à fait, tout à fait. Enfin bon. Alors, excellent numéro, donc bon dossier. Mais alors, il n'y a pas que, je vous préviens tout de suite, chers amis auditeurs, parce que c'est quand même c'est un bon magazine, hein. Ça fait 66 pages plus 4 de couverture, donc c'est pas si mal. Donc c'est en vente dans tous les kiosques. Il vous en coûtera 6,50 € pour avoir ce numéro 15 de septembre 2007. Puis il y a également toutes les chroniques, les rubriques habituelles. Hein. Mais je trouve que là, ce dossier sur le capitalisme, qui est difficile à faire, hein, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Et il y a notamment une critique assez virulente dans un article de Balsa contre les idéologues du néolibéralisme comme Hayek et Friedman. Je crois que Friedman vient de mourir il y a un mois. Et Hayek, je crois qu'il a plus mal au nom depuis longtemps, semble-t-il. Enfin, je peux me tromper. J'aime beaucoup les titres. C'est la mondialisation explique à mon cheval. Ben, lisez ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Non pas que en soi, ce qu'on appelle le commerce international qui rapproche les peuples, comme on disait au 19e siècle. Bon, oui, pourquoi pas. Enfin, bon, voilà, c'est très bien. Il faut mieux s'échanger des marchandises que des obus. Voilà. Bon, encore que l'obus peut être aussi considéré comme une marchandise. Bon, en tout cas, elle a une valeur marchande.
Et encore que l'obus puisse être utilisé pour ouvrir de nouveaux marchés.
Ouvrir de nouveaux marchés. On est on est méchant là. Mais vraiment, la mondialisation, oui, il faut en voir le...
On est méchant, mais enfin, on peut aussi noter au passage que Saddam Hussein voulait procéder aux échanges au commerce du pétrole en euros.
Oui.
On sait ce qu'il est advenu, et que l'Iran envisageait également de créer une bourse du pétrole en euros.
Oui.
Voilà, ouais. Ce sont des coïncidences.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, justement, il n'aurait pas dû le dire et le faire. Oui, parce que c'est quand on annonce des trucs, généralement, des fois les gens annoncent des trucs et puis pouf, ils glissent dans leur salle de bain, ils s'éclatent le crâne contre la baignoire, on n'a pas compris pourquoi. Voilà, c'est une savonnette mal placée, enfin l'accident bête. Voilà, le truc comme ça. Donc c'est parce que la mondialisation, c'est intéressant, j'en parlais tout à l'heure un petit peu là, en toute fin de première partie, puisque nos pères évêques, qui sont pas mes pères du tout d'ailleurs, parce que moi je ne reconnais que l'évêque de mon diocèse, les autres m'intéressent qu'extrêmement médiocrement, viennent de faire une déclaration à propos du projet de loi sur l'immigration. Alors là, franchement, je veux dire, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et ils sont mis deux pour faire ça. Il y a Mgr Olivier de Béranger, qui est l'évêque de Saint-Denis, la diocèse particulièrement actif au plan catholique, et puis Mgr Claude Schockert, qui est évêque de Belfort-Montbéliard, le pays des saucisses, et de Mgr Schockert. Je dis ça, ça a l'air d'être un petit peu insultant. Je dois dire que sur le site officiel du diocèse de Montbéliard, donc dont l'évêque, je rappelle son nom, s'appelle Mgr Schockert, il y a, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, et puis tout le monde peut y aller voir, il y a une rubrique qui s'appelle répertoire de la solidarité. Déjà, quand on voit ça sur un site diocésain, on commence à trembler, on serre les fesses, hein, parce que on sait qu'on s'attend à tout. Et bien, il y a officiellement sur le site du diocèse de Mgr Schockert, évêque de Montbéliard, là on fait des saucisses, il y a une publicité pour le mouvement français du planning familial, qui est quand même vraiment l'association pro-avortement numéro 1 avec palme dans ce pays. Bon. Et alors, sous-titré par les soins du service de la communication de ce diocèse, éducation sexuelle et droit des femmes. Voilà, les bébés, ça, c'est un peu plus difficile, le droit des bébés, à cet égard. Alors, c'est absolument scandaleux. Et alors, ils nous ont fait un truc très, très drôle. Je le dis ça, je ne sais pas, vous l'avez pas encore lu, La Robière ?
Non, pas encore.
Ah, vous manquez de piété. Manquez de piété, il faut que je vous envoie. Vraiment, il y a des textes qui vraiment vous feraient faire des papiers extraordinaires. Alors, ils disent, bon, voilà, ils disent, alors, il faut, maintenant, tous les immigrés doivent être absents, maintenant, tous. Alors, maman, papa, grand-père, oncle, petit-neveu, ceux à venir, on peut les déterrer, même comme au Madagascar, pour les faire venir avec. Alors, voilà, il faut absolument, tout est faux, mais tout est faux d'un point de vue politique, d'un point de vue théologique, d'un point de vue catéchétique. Ils n'ont même pas lu le catéchisme de l'Église catholique, c'est quand même fou. Et ils disent, tant que cette vision solidaire ne sera pas clairement perçue et mise en œuvre, les mesures toujours plus restrictives prises à l'encontre des migrants apparaîtront comme des concessions à une opinion dominée par la peur, plutôt que par les chances de la mondialisation. Alors, moi, la mondialisation, je suis pas contre, mais j'attends d'en voir les chances. Pour l'instant, je ne vois que du mauvais, et pour ceux qui perdent leurs emplois en France, et pour ceux qui ont du boulot en Chine. Parce que, à la limite, c'est moins dur d'être chômeur en France que d'être ouvrier dans les usines chinoises. Voilà, je peux vous le dire. Parce que là-bas, en Chine, on travaille à en mourir. Les Chinois ont même inventé un mot nouveau pour dire mourir de travailler. Voilà ce que c'est aussi que la mondialisation, et voilà la chance de la mondialisation que nous annonce Monseigneur de Béranger et Monseigneur, comme j'ai dit, Choquert, évêque de Montbéliard. Là, on fait des saucisses. Pardon. Vous êtes toujours là, Bruno?
Je suis toujours là. J'étais en train de me demander si la saucisse était religieusement correcte.
Eh ben, écoutez, moi, là, je n'ai rien contre la saucisse de Montbéliard, mais par contre, l'évêque commence à me crisper.
Tout simplement qu'elle soit halal.
Depuis que l'islam est une composante intime de notre pays.
Ah oui, mais oui. Ben...
Comme a dit le président de la République lundi soir à la Grande Mosquée de Paris.
Eh ben voilà. Mais enfin, là, peut-être que les saucisses de Montbéliard vont être halal maintenant, puisque vous savez que dans les...
On fait de la saucisse halal?
Ben oui, ça se fait, tout
oui,
se fait.
Oui, mais il y en a à Paris, à tous les coins de rue.
Voilà, j'ai pas dit halal, hein, j'ai dit halal. Voilà. Non, parce que maintenant, dans les écoles primaires de Lyon, on servira plus de viande aux enfants, comme ça c'est réglé, ils vont manger que des légumes. C'est bien, parce que entre la viande halal, la cachère, et puis, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, je rappelle, Bruno Larabia, vous restez encore avec nous, le choc du mois, le numéro 15, septembre 2007, 6,50 euros, en vente dans tous les kiosques, mais on peut également se le procurer en écrivant au 51 boulevard Garibaldi, 75-015 Paris. 51 boulevard Garibaldi, 75-015 Paris. Ça coûte combien l'adhésion, l'abonnement?
L'adhésion, non. L'abonnement, maintenant que nous en sommes au numéro 15, nous espérons rassurer les gens qui, lors de nos premiers numéros, nous disaient « Oui, je veux bien m'abonner, mais est-ce que vous allez tenir? Est-ce que ça va durer ?»
Ouais, ce machin, ça dure 3 mois.
Vous abonnez à beaucoup de choses, et puis après, ça s'arrête, etc. Bon,
après
15 numéros, ça va faire bientôt 16, parce que le 16e va partir à l'imprimerie dans 10 jours.
Donc, bien avancé.
Donc on peut s'abonner, et on doit s'abonner.
Alors, c'est combien?
Pour 65 euros. 11 numéros par an, 65 euros.
Donc c'est, voilà, on gagne un numéro quoi en fait quand on s'abonne.
Un numéro, on le reçoit dans sa boîte le matin de la parution au kiosque, voire la veille.
Oui. Sous un plastique opaque, hein, je le précise pour ceux qui auraient peur, parce que beaucoup de nos auditeurs ont encore peur. Je crois, ils croient encore que la Wehrmacht n'a pas quitté la France et qu'il y a toujours le mur de Berlin, que les cocos sont aussi en pouvoir à Moscou. Je rappelle à nos amis auditeurs que il n'y a plus d'Union soviétique et que la Wehrmacht a quitté la France depuis quand même déjà un certain nombre d'années. Monsieur le Marquis,
vous avez insisté en plus, je voudrais dire quand même, j'en connais plus d'un, mais j'en connais un en particulier, il y a beaucoup de facteurs qui sont tout à fait nos amis.
Tout à fait. Ils ne sont pas tous de la Ligue communiste révolutionnaire. Voilà, on en a de très bons, j'en connais. Alors, Bruno, je vous garde encore quelques minutes, là, au moins jusqu'à moins 5 ou 7 heures, parce que j'ai donc lu, pour l'instant, par l'Internet, mais j'arrive, moi je fais des très beaux tirages, regardez comme c'est beau tout ça, bah oui, on est équipé. Hein.
Encore elle vraie,
moi un tout petit peu plus petit. Il y a un numéro, le numéro de Minute là qui vient de paraître, qui est dans les kiosques aujourd'hui, donc sitôt l'émission, les auditeurs pourront se précipiter dans les gares, etc. pour aller l'acheter. En plus, à 3 euros, c'est pas très cher, daté d'aujourd'hui, mercredi 3 octobre. Il y a deux papiers qui sont vraiment, vraiment très intéressants, et qui est bien dans le style de Minute, si vous voyez ce que je veux dire, Bruno.
Ben, je pense que vous faites allusion aux deux papiers sur les Sarkozy, père et fils.
Voilà, exactement. Mais je voulais dire que vous savez ce qu'on appelle le minute de la grande époque.
Bah, c'est tout à fait dans l'esprit, effectivement, de minute, et je suis content de pouvoir en parler dans cette émission, puisque c'est le libre journal de Serge de Beketch, et que Serge de Beketch a été, pendant de longues années, le rédacteur en chef de minute, et je ne sais pas s'il peut nous écouter.
Non, cas, malheureusement pas.
Je lui souhaite un prompt rétablissement et une meilleure santé dans les meilleurs délais.
Quoi que je sois quelqu'un qui garde toujours les secrets, ça sera répété.
Eh bien, je l'espère.
Alors, merci pour lui. Et donc, dans ce numéro de Minute, qui est le numéro 2327, diantre, il y a deux papiers.
Oui, 2327,
c'est pas mal, hein.
On est à 45 ans.
C'est pas mal quand même, 45 ans. C'est un bel âge pour un journal. Monsieur le Marquis.
Je voudrais préciser que j'étais l'ami de Jean-François Devet.
Ah, voilà.
Et c'est que grâce à Jean-François Devet, enfin pas grâce à lui, mais à cause de la fréquentation assidue que j'avais de Jean-François Devet quand j'étais à l'armée, je me suis retrouvé en tôle à la fin de mon service militaire.
Voilà, encore un. Encore.
Minute, pour moi, c'est très sérieux.
C'est très sérieux. Donc, c'était Jean-Paul Chéric de Olmetal, que vous venez d'entendre. Alors, je rappelle d'ailleurs que nous sommes sur.
Quand même aux auditeurs qu'on peut aujourd'hui lire.
Sans se retrouver en tôle.
Sans se retrouver
absolument, voilà. Faut le dire, parce que des fois, les gens ont peur. Ils osent pas acheter des journaux de droite. C'est quand même curieux. C'est quand même invraisemblable, quoi. Avec toutes les cochonneries qu'on voit sur les devantures, maintenant, dans les kiosques, à la vue des enfants et tout, et même des personnes qui, comme un certain nombre d'entre nous, ont un peu de pudeur, quand même, bon. Alors, les gens n'osent pas. Alors, donc, Minute, on peut l'acheter. Et alors, il y a deux papiers extraordinaires. Alors, donnez-nous Pat, faut pas tout nous dire, hein, Bruno, mais donnez-nous un peu la substance, la substantifique moelle de ces deux papiers qui sont absolument épatants. L'un qui a trait à l'ancienne activité professionnelle de Monsieur le Président Sarkozy, qui était d'être avocat, et la seconde information qui est liée à l'un de ses fils, Pierre, alors issu du mariage numéro 1, je crois que c'est ça, histoire de numéro 1, et qui a été louveteau. Racontez-nous, mais dites-nous autant qu'il faut pour aller chez le public, mais pas trop non plus pour que les gens aient quand même envie d'aller l'acheter pour le découvrir.
Bon, bah, je vais être bref sur le fils, sur Pierre Sarkozy. Pierre Sarkozy a été inscrit comme scout, et a été scout, à la, ce qui est connu sous le nom de la 7e Paris, le groupe Saint-Michel, et c'est amusant parce que c'était le groupe bien connu, je pense, d'une bonne partie des auditeurs de Radio Courtoisie, pour être une des troupes scouts, si ce n'est la troupe scout la plus droitière, et le terme est faible, de la capitale. Et donc, nous avons les documents attestés de son inscription pour la saison 91-92. Nous avons sa fiche d'inscription et quelques anecdotes qui ont trait à ce qu'il y faisait et à une mésaventure qui est venue à son papa, qui était alors maire de Neuilly.
Comment Nicolas Sarkozy a failli ne pas être le président de la République française, ce jeune président que le monde entier nous envie, et a failli mourir au Mont-Saint-Michel.
Exactement.
Mais failli pour de bon.
Je n'en dirai pas plus.
Il ne faut pas rire de ça, mais...
Donc je ne dévoile pas.
Alors lisez ça, c'est absolument passionnant, c'est ce petit article, ce papier très passionnant, vous allez voir que c'est quand même, c'est non seulement une famille qui est de poil, mais en plus c'est assez rigolo, franchement, bon, je pense qu'est devenu le Pierre là, il m'a l'air d'avoir beaucoup grandi et d'avoir les cheveux quand même assez longs, sur la photo en tous les cas, mais enfin bon, ce jeune homme, comme on dit, a un passé.
À l'époque, il s'était un peu plus dégagé derrière les oreilles.
Voilà, bon.
Mais là, il se fait des cheveux pour la carrière de son père.
Voilà, ça doit être ça, oui. Et alors, l'autre histoire, c'est l'histoire, alors... Là encore une fois, votre article est très bien fait parce qu'il est avec comme un certain nombre de points d'interrogation. Tout est vrai. Je veux dire, c'est pas du pipotage. Il y a quand même un problème. C'est vrai que ce président de la République, c'est quand même Speedy Gonzalez, on peut dire quoi. C'est la souris qui court plus vite que son nom. Bon, mais là, je veux dire, quand même, c'est assez surprenant. Racontez-nous cette petite histoire. Allez chez nous.
Alors bon, je vais être un tout petit peu plus long, peut-être.
Oui. Vous avez 5 minutes.
Effectivement, du travail d'investigation. Nicolas Sarkozy était avocat, associé dans une société qui s'appelle Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy, plutôt qui s'appelait Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy. Il n'exerçait pas en tant qu'avocat, il ne plaidait pas lorsqu'il était ministre, mais restait associé. Lorsqu'il est devenu président de la République, que s'est-il passé? Il a décidé de rester associé. Et de ne plus être avocat. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, puisqu'il est ancien avocat au barreau de Paris, selon la bio fournie par les services de l'Élysée. Pour le barreau de Paris, il est toujours inscrit, avec son numéro de TOC. Bon, on peut supposer qu'il s'agit d'une erreur, que ça n'a pas été mis à jour, etc. Ce qui pose plus de problèmes, c'est qu'il reste associé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une assemblée générale de cette société qui a décidé de modifier la raison sociale de Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy en Arnaud Claude et associés. Ouais. Et là, on se dit, c'est parfait, c'est même élégant. Il est toujours dedans, mais comme il est président de la République, le cabinet d'avocats ne veut pas jouer sur son nom, sur sa notoriété, sur ses réseaux d'influence, pour s'attirer une clientèle. Donc, il disparaît de la raison sociale. Oui, enfin, il en disparaît aux greffes du tribunal de commerce, où on va pas forcément tous les jours. Il disparaît pas du site internet de la société, qui, j'ai pas vérifié aujourd'hui depuis la parution de Minute, mais hier c'était Nicolas Sarkozy, et hier également dans l'ANER, c'était toujours Arnaud Claude et Nicolas Sarkozy. Alors ce qui est amusant, vous parliez du côté Speedy Gonzalez, bon, il y a pas mal d'autres choses qui posent problème, et que nous avons relevé, notamment le fait qu'il demeure associé, même passif, mais avec la possibilité de toucher des dividendes, d'une société qui, ne portant plus son nom, mais le portant quand même, devrait voir son chiffre d'affaires prospérer et donc lui permettre d'avoir des dividendes plus importants. Je vous donnerai pas le montant du chiffre d'affaires. Curieusement, par négligence, par étourderie, la société n'a pas déposé ses comptes au tribunal de commerce depuis 2002.
Ça arrive.
Pendant toute la période où il a été ministre de l'économie, par exemple, pendant toute la période où il a été ministre de l'intérieur, on ne sait pas si le chiffre d'affaires de sa société d'avocats a prospéré. Marvin, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les courriers ont dû s'égarer. Ce qui est amusant dans le côté Speedy, c'est que l'Assemblée Générale, donc au cours de laquelle la raison sociale a été changée, s'est tenue le 9 mai 2007. Au siège de la société d'avocats, c'est du cabinet d'avocats boulevard Malesherbes à Paris, en présence de Nicolas Sarkozy, puisque nous avons le procès verbal de l'Assemblée Générale.
Il était même scrutateur de la séance.
Il est bien dit, monsieur Nicolas Sarkozy est appelé comme scrutateur. C'est important, parce que ça veut dire qu'il n'est pas représenté, il n'a pas donné le pouvoir à quelqu'un,
il
est là physiquement. Voilà. Alors il est là physiquement, oui, bien sûr, puisque c'est écrit, c'est forcément vrai. Le 9 mai 2007, en tout cas, il n'était pas là physiquement le matin. Oui, parce que le procès-verbal ne marque pas l'heure de début ni l'heure de fin.
Ce qui est, en principe, ce qui peut être opposable en justice.
Mais là, ça l'est pas. Bon,
bah, il faut noter l'heure.
Il devait être pressé, donc elle n'a pas dû se tenir le matin, parce que le matin, il était à Malte.
Ouais.
Vous vous souvenez de ce voyage à
fait.
Malte?
Mais oui,
Lyon,
il est d'être élu. Ouais,
machin, bon, voilà. Elle s'est pas tenue l'après-midi non plus, parce que l'après-midi, vous savez où il était? Il était à Malte.
Voilà.
Alors elle s'est pas tenue non plus en début de soirée, parce que il était à Malte.
Dans l'avion.
Puis après, il était dans l'avion. Alors, après une enquête, vous voyez, on a un petit problème, c'est que, bon, cette Assemblée Générale se tient le 9 mai 2007, le 9 mai 2007, le Falcon de Nicolas Sarkozy, à bord duquel il se trouve, atterrit au Bourget entre 22h40 et 22h45.
C'est tard pour tenir une assemblée.
Effectivement, c'est Speedy Sarkozy, puisque comme on ne peut pas mettre en doute le procès verbal de l'Assemblée Générale de la société, eh bien, il est pris en charge aussitôt par dans un convoi qui, toute sirène hurlante, fonce vers le boulevard Malesherbes pour qu'il arrive, et on va dire vers 23h, 23h05, là, se tient l'Assemblée Générale, nuitamment, avec ses associés, ils font ça à toute allure, c'est plié à 23h59, y compris la retranscription de la réunion, ils signent tout ça maladroitement d'ailleurs, c'est marrant, quand on regarde la signature. C'est...
Bon, enfin, il était fatigué.
Il a signé comme d'habitude, quoi, et on voit qu'il était pressé d'aller se coucher, et puis voilà, à minuit moins quelques secondes, c'est plié et il peut rentrer faire dodo pour être le lendemain matin à 8h30 devant les députés de l'UMP.
Bruno, on n'en dit pas plus, d'abord parce que l'heure passe et qu'il faut que, malheureusement, que notre intervention se termine là, mais c'est très intéressant. Peut-être une question de Victoria, peut-être pour vous, alors.
Question intéressée pour vous. Les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent-ils bénéficier d'un tarif préférentiel pour s'abonner au choc du mois?
Oh bah alors j'en sais rien, moi je peux pas. Pourquoi il y a un tarif spécial? Non, faut pas exagérer quand même, non.
Alors je propose que à la parution du prochain numéro.
Au 16.
Le numéro 16, je sois présent dans le studio.
Voilà.
Et on pourrait, je sais pas, trouver quelque chose d'amusant, d'efficace, qui plaise à tout le monde, que pendant toute la durée de l'émission, par exemple, les gens qui appelleront pour dire « je m'abonne » bénéficient d'un tarif préférentiel.
Vous voulez faire un choc-au-ton, quoi, c'est ça? Un choc-au-ton, vous voulez faire
que je donnerai à ce moment-là, en début d'émission.
Bon, ben écoutez, moi je m'autorise d'être le suppléant de Serge Beketch et de temps en temps collaborateur au choc du mois pour proposer une opération spéciale pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Si vous vous abonnez pour un an, vous payez 65€, et pour deux ans, c'est un prix spécial ce soir, vous ne paierez que 130€. Donc, ça va comme ça, chef?
Oui. Alors, il faut savoir que nous n'avons pas de publicité.
Non, aucune. Vous n'êtes pas les seuls.
Le choc du mois, comme minute...
Radio Courtoisie non plus, d'ailleurs.
C'était totalement indépendante. Que Jean-Marie Molitor, qui porte les deux titres à bout de bras, n'est pas réputé pour être Vincent Bolloré ou Arnaud ou Pinault. Que nous vivons uniquement de nos ventes. Oui. En kiosque, de nos abonnements, et que nous ne pouvons pas non plus baisser trop le prix de l'abonnement.
Absolument.
L'abonnement correspond à un numéro, effectivement, gratuit. Nous faisons occasionnellement des offres promotionnelles.
Voilà, nous verrons le mois prochain. Le mois prochain, pour l'instant. Merci, cher Bruno Larobière. Donc, je rappelle, vous êtes le rédacteur en chef du Choc du Mois, que vous pouvez trouver en kiosque, moyennant 6,50€. Également, vous êtes le journaliste à Minute, et j'invite nos auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil sur le numéro 2327 du mercredi 3 octobre, qu'ils trouveront dès ce soir soir dans les kiosques. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, j'offre tout de suite mon exemplaire au divin marquis qui va se régaler de ça parce qu'il faisait, il avait l'œil concupissant et la lippe tremblante. Bon, voilà.
Avec, dans la grande tradition de Minute, les documents qui prouvent
tout. Qui prouvent, oui, toutes les photocopies, tout y sont. Voilà. Merci Bruno de votre participation. Merci, et puis je souhaite de tout cœur que pour le prochain numéro, à la date qui vous conviendra, parce que vous êtes évidemment en province, c'est un peu compliqué, mais que vous nous ferez l'amitié enfin de venir dans ce studio où vous êtes déjà venu, mais pas chez moi. Voilà.
Avec grand plaisir.
Donc je suis extrêmement jaloux. Voilà. Vous faites la tête, je sais pas pourquoi, mais vous voulez pas me voir. Je dois sentir mauvais de la bouche, mais vous ne pas me voir dans le studio. C'est effrayant quand même. Bon, il est très désagréable la première. Bon. Au revoir mon cher camarade.
Bonsoir Daniel.
Que Dieu vous garde. À bientôt. Donc vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie dans le Libre Journal de Serge Didier de Beketch, dirigé ce soir en première partie par Daniel Amiche, en seconde partie aussi, mais la seconde partie est enregistrée. Donc Daniel Amiche n'est assisté de Victoria qu'en première partie. Tout est demi-grâce ce soir. Avec la permission de Jean-Paul Chéri de l'Olmeta, et je dois passer un petit message de notre radio préférée. Bien sûr.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents.
Cette langue belle, Radio Courtoisie continue de l'honorer. Jean Ferré a créé le prix Daudet en 1997. Il en fut le lauréat en 2006. Aujourd'hui, pour rendre hommage au fondateur de Radio Courtoisie, le prix Daudet est rebaptisé prix Jean Ferré. Cette année, le prix Jean Ferré sera décerné le samedi 10 novembre lors de la fête de la langue française pour le 20e anniversaire de Radio Courtoisie. Le jury du prix Jean Ferré est constitué par l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes membre du jury. Votez pour la personnalité française ou francophone qui, selon vous, a le mieux servi la langue française durant les trois dernières années. Vous pouvez choisir parmi les écrivains, les journalistes, les producteurs de radio ou de télévision. Demandez un bulletin de vote en nous envoyant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Après avoir indiqué le nom de votre choix, il vous suffira de faire parvenir anonymement le bulletin à l'huissier mentionné. Cet huissier effectuera le dépouillement. La liste des 10 noms arrivant en tête sera publiée et le samedi 10 novembre, les adhérents participant au déjeuner éliront, par vote à bulletin secret, celui des 10 noms qui sera proclamé prix Jean Ferré 2007. Vive la langue française.
C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie.
Et bien voilà, donc c'était l'annonce alors traditionnelle, celle-là, de notre déjeuner. C'est un déjeuner, hein, je me trompe pas, hein, parce que des fois j'ai un peu tendance. Je préfère déjeuner, moi, comme ça, après on peut faire la sieste. Mais voilà, c'est toujours une séance extrêmement agréable avec tous ces amis auditeurs qui viennent, les patrons d'émission qui sont là. Voilà, il y a des tas d'années, on discute. Vraiment, c'est un moment sympathique.
Un plaisir de... Eux sont contents de voir le visage d'une voix.
Oui.
Ils sont parfois déçus.
Des fois, vrai mieux pas. Mais voilà.
Et puis, nous, on est bien contents aussi de voir les têtes de nos auditeurs.
Voilà, exactement, c'est très agréable.
Sympathique.
Très, très agréable. Alors, mon cher Jean-Paul Chéri. Il y avait deux Jean-Paul ce soir. Tiens, Argouarche et Chéri d'Olmeta. C'est pas mal, quand même.
On est lié par ça, déjà, avec
le... Ah oui, c'est pas mal, hein. Donc, on voit qu'il y a quand même une complicité. Bon. Oui. Alors, présentez-nous le prochain, le libre journal papier de notre bon camarade Serge. Évidemment, là, il n'a pas pu y collaborer beaucoup. On vient d'expliquer tout ça. Mais enfin, il a une équipe autour de lui qui s'affaire pour continuer.
Il se trouve que là, il faut lui rendre hommage. L'équipe, elle était pratiquement seule. C'était Patrick Goffman pour la bonne raison que pour des raisons pratiques, le bouclage a été déplacé d'une journée. Et pour ma part, j'avais un rendez-vous que j'avais mis 6 mois à obtenir. Donc, je suis arrivé. Tout était pratiquement ficelé. Alors, j'en ai pris connaissance, pas encore complètement. J'ai regardé un peu ma page, etc. Je vais un peu le découvrir avec vous. Bon, en première page, dans l'esprit de l'humour de Serge, notre ami Goffman a trouvé un dessin qui nous rappelle que Serge est à l'hôpital. Voilà, il a fait ça dans l'esprit de l'humour de Beketch. Bon, alors, on va passer tout de suite à la troisième page. Serge, n'ayant pas eu la possibilité de faire un éditorial, C'est François Brignot qui a pris la plume, donc c'est pas la peine de vous dire que vous serez pas déçus.
C'est pas mal non plus quand même, voilà. Brignot. Hein.
Alors il commence, moi je l'ai, j'ai lu en, en diagonale pour l'instant, il commence à s'occuper de Bernard Thibault qui compare à Jeanne d'Arc à cause de ses cheveux. Je trouve que ça commence très bien. Bien, alors nous avons un grand, grand reportage de 1, 2, 3, 4 pages de Bernard Anthony.
Ah, Bernard, oui.
Sur le Liban, avec, il parle des saints, des héros, des assassins, des politiciens, avec de très jolies photos. C'est un très, très beau papier. Que je n'ai pas lu non plus complètement, mais...
Ah, Bernard revient, il revient du Liban.
Voilà, il revient
du Liban. Et je signale à nos auditeurs qui ne me supportent pas que le mercredi prochain, ils ne me supporteront pas parce que je serai pas là.
Voilà.
C'est Bernard Anthony qui fait les 3 heures de l'émission Libre Journal de Serge Bekaetch.
Et alors, il fait ce que votre serviteur fait, lui, quand il va en voyage. Seulement, lui, il fait des choses sérieuses. Non, mais là, ça peut le compte rendu de son voyage. Et dans le prochain numéro, il continuera en nous emmenant à la découverte du rite grec catholique et des vins de Xara.
Les vins de Xara, c'est très bon.
Oui, ça sort de vin de messe dans les pays orientaux.
Ah oui, mais c'est un vin libanais qui est excellent, le Xara. C'est très bon. Il y a le Kefraya est bien, mais le Xara, c'est pas mal du tout.
Bernard Anthony en parlera dans le prochain numéro. Alors, dans ce numéro-là, on a ensuite une double page de Rondeau. C'est un peu ardu, mais bon, pour les gens qui ont un peu de sous, ça vaut le coup de le lire.
Ça vaut le coup de le lire. Faut donner de le mal. L'argent ne se gagne pas comme ça. Il faut transpirer.
Savoir le conserver ou l'exploiter. Il y a un papier de notre ami Eric Arzel sur la visite du patriarche des Russies, qui est un immense événement. Il y a la revue de presse, j'en profite pour dire que l'ami Goff a sorti une petite information du Canard Enchaîné, où il s'est produit une énorme bêtise au congrès de l'UMP. On avait invité le chancelier Jacques Maillot pour faire son numéro, pour distraire tout le monde. Évidemment, il brocarde un peu Sarkozy, mais enfin, comme le font les chansonniers. Et M. Sarkozy l'a très très mal pris. Mme Rachida Machin l'a traité de ringard, etc. Bon, M. Jacques Maillot est tout de suite tout ça. Mais moi, j'ai envie de leur dire, attention, méfiez-vous, parce que il y a encore une époque pas si lointaine, hein, sous René Coty, tout ça, on recevait les chansonniers une fois par an à l'Élysée. Il y en avait un qui se décrochait une Légion d'honneur.
Oui.
Et pourtant, ils épargnaient personne.
Non.
Le général de Gaulle ne les aimait pas beaucoup, mais les a jamais insultés en public. Oui. J'ai dit là, mon petit monsieur Sarkozy et madame Rachida Machin, faites attention, il y a toujours eu un fou du roi, il a une certaine puissance.
Oui.
On ne touche pas ni aux chansonniers ni aux canards enchaînés, c'est comme ça.
Il y a peut-être de l'amour entre Rachida et Nicolas, mais il n'y a pas d'humour.
Ah non, c'est clair.
Voilà.
Et je trouve que ce monsieur...
Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, j'ai bien compris. Le président qui a tellement de travail et qui se... Bon, qui porte un jugement de valeur sur un chansonnier qui a fait ses preuves, je trouve ça un petit peu...
Oui.
Voilà. Alors nous avons après une double page où notre ami Goff se fait pour une fois un peu de publicité. Il nous parle de... Quelque part, c'est un peu les bonnes feuilles de son prochain bouquin sur Hillary Clinton. Alors, il paraît qu'on apprend plein de choses. Voilà.
Oui. C'est pas ma marque de future présidente préférée, Hillary Clinton, non,
ça,
vous le dire.
Je doute bien. Nous avons le Centre de langue et de culture russe qui donne des explications sur Beslan. Pardon.
On les a reçus ici, je les ai reçus ici.
Et alors, il y a un joli papier avec des photos, évidemment, qui sont très très bonnes, mais qui font mal au cœur, qui sont dures. Et le titre, c'est « La faute à Poutine ». Marie-Claire Monchot explique aux jeunes que quand ils seront encore plus jeunes, ils comprendront mieux. Enfin, c'est la vieillesse à l'envers, c'est assez bien fait. Notre ami
Mais en plus, je peux dire que je vais tout à fait dans le sens. Plus je vieillis, plus je vais dans le sens de Mme Monch. Je suis tout à fait d'accord. Plus on vieillit, plus on en sait.
Je la salue. Ah ben non, elle peut pas nous.
Elle peut pas nous écouter.
Il y a le papier d'Augusto von Pickendorf qui nous raconte son séjour à Katmandou. Il a eu de la chance d'arriver un peu avant que la monarchie soit franchement ébranlée. Ouais. Bon, il y a un papier très très bien fichu d'Anne Brassier, qui raconte dans le fond l'histoire de Radio Courtoisie. Là, je l'ai lu complètement. J'ai eu le temps. C'est parfait. Après, alors, il y a un papier de Jeanne Smith. Là, c'est pas elle qui l'a, rédigé, mais c'est pompé avec la permission du journal dans présent. Et ça raconte le procès d'Henri-Claude Cousseau. C'est sur l'art contemporain. C'est assez drôle. Moi, je me suis permis, tout à l'heure, on parlait de l'immigration. Il y a une petite brève où je parle du livre de l'abbé Cellier, Un regard chrétien sur l'immigration,
oui,
que je vous conseille vivement. C'est un sacré argumentaire. Pour
c'est
pouvoir
un
parler.
Bon argumentaire. L'ouvrage n'est pas, comme je l'ai dit déjà, parce que Cellier, j'ai reçu pour ce oui. bouquin. Donc, l'argumentaire n'est pas complet, mais il est intéressant.
Oui,
il sera de nouveau invité pour le parler du même thème lundi prochain dans le Libre Journal dirigé par Philippe Maxence. Donc de 12h à 13h30, il y aura un débat sur les questions de l'immigration et notamment lié à cette nouveauté extraordinaire de la déclaration à propos du sujet de loi sur l'immigration de Mgr de Béranger et de Schockert, qui est donc
Montbéliard.
Voilà, Montbéliard.
Donc, à la limite, j'invite l'abbé Sellier à leur envoyer son ouvrage. Donc, moi, j'en dis quelques lignes, et je ne pouvais... D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il raconte, et c'est très, très bien. Et en même temps, il m'a fait une tellement jolie dédicace.
Voilà,
je lui donne un coup d'encensoir, ce qui mérite bien. Et je parle aussi, alors, bon, la défaite en chantant, le bouquin d'Allègre, assez mal écrit, parce que c'est simplement des conversations transcrites, mais qui n'est pas inintéressant. Vous avez une pleine page de publicité pour le bouquin de Serge,
c'est
le catalogue invisible.
Pas mal, t'as pas pris une ride, ce catalogue-là.
Non.
C'est au contraire.
Plaisir.
On pourrait rajouter des pages.
Bon, alors après, il y a ma page, je n'en parle pas. Bon.
Si, justement, il faudra parler un petit peu de votre page.
Alors, qu'est-ce que je raconte, parce que ça fait un moment déjà.
Comme vous ne l'ignorez pas, comme on dit sur les mauvaises radios, tous les auditeurs de Radio Courtoisie ne sont pas abonnés au Libre Journal de la France Courtoise. Donc, il faut quand même les titiller.
Bon, en gros, quand même, il y a un peu de dépotin, comme d'habitude, mais il y a deux colonnes sur un voyage à Tanger à l'occasion d'un bal mondain. Bon, c'est moins méchant que d'habitude, mais enfin, ça amusera quelques personnes, et puis d'autres vont essayer de se reconnaître. Voilà.
Parce que vous avez du style, mais la dent dure, quand même, des fois.
Ben oui, mais ouais, quand c'est pas dur, c'est mou, et ça leur plaît pas. Alors bon, ouais, je veux bien. Il y a la dernière page où il y a un petit billet de Goffman qui dit un peu ses inquiétudes pour l'avenir. Il y a une critique de cinéma, et puis notre ami Antonin, qui est un intermittent du journal, mais pas du spectacle, puisque c'est le présentateur du Théâtre des Deux Hommes, eh bien, a fait un papier sur Jacques Martin, gastronome. C'est assez court, mais c'est très brillant, et ça rend hommage. Savez-vous que Jacques Martin, en tant que cuisinier, était meilleur ouvrier de France?
Et son fils est cuisinier aussi.
Et son grand-père était le cuisinier du tsar Nicolas II.
Ça, je savais pas toutes ces choses-là.
Voilà, alors bon.
Ah ben, écoutez, franchement.
Donc,
voilà. Ils n'ont jamais servi à l'Élysée. Jamais.
Non. Mais Jacques Martin, c'est la cuisine comme Dieu le père.
Ah oui, il cuisinait bien. Eh ben, écoutez, voilà. Alors donc. Le Libre Journal de la France courtoise, de notre camarade, de notre bon camarade de Beketch, donc le numéro 415 sera donc expédié dans la poste dans quelques jours.
Il part demain matin, quoi.
On l'aura pour le week-end. Alors comment faire pour combien ça coûte, comment il faut faire, où est-ce qu'il faut c'est intéressant tout ça.
Il faut s'adresser. Alors d'abord
l'adresse.
Voilà, le Libre Journal tout court, ça suffit. 4 place Franz Liszt, 75010 Paris. Et l'abonnement pour un an,
c'est 110
euros, oui. Alors, je sais plus combien ça fait de numéros.
30 de numéros, 32 numéros,
voilà,
oui, parce que c'est tous les 10 jours. Donc,
voilà,
parce que Serge ne fait jamais les choses comme tout le monde.
Ah ben non, il faut que ça soit un peu compliqué.
Il prend des bureaux, le seul nom de la Paris qui est pas prononçable, Franz Liszt. C'est très compliqué, parce que Franz Liszt, alors, c'est 4 places Franz Liszt, 75-010 Paris. 75-010 Paris, c'est facile. Mais 4 places Franz Liszt, c'est très difficile. Voilà, très difficile.
Le Décadère, c'est pareil. On ne sait jamais quand est le bouclage. Il faut qu'on se téléphone.
Figurez-vous que moi, comme suppléant de Beckett, j'ai toujours du mal à savoir, quand est-ce que je dois boucher les trous.
Serge est un tantinet organisé, mais pas exactement comme nous. Quoi. Ça ne fonctionne pas de la même manière.
Hein. C'est une autre logique.
C'est une logique de l'Oural. Voilà.
Bon. C'est une logique ouralienne.
Pour vous abonner, donc l'adresse qu'on a déjà dit plusieurs fois, 110 euros.
Alors, faites-le, parce que je l'ai dit déjà la semaine dernière, et peut-être le message n'est pas suffisamment passé, les difficultés actuelles de santé de Serge, ces maladies répétitions, ces fatigues qui l'ont vraiment épuisé depuis, pendant tout le printemps, il était quand même pas au mieux de sa forme, on l'a entendu ici suffisamment, on fait en sorte qu'un certain nombre d'obligations administratives, légales, enfin tout le bastringue habituel, n'ont pas pu être fait, que Daniel Beckett, vous imaginez, en ces semaines, a quand même autre chose à faire qu'à remplir des papiers d'URSSAF, de machin, de trucs et des déclarations de TVA, je ne sais pas quoi. Mais bon, il n'empêche que là, c'est vrai, et puis la période des vacances où il n'y avait pas de pas de libre journal a fait que le taux des réabonnements a été un petit été ralenti par les vacances et qu'il faudrait qu'il reprenne un peu.
Hein.
Voilà, il faudrait qu'il reprenne un petit peu et il faudrait vraiment que nos amis auditeurs fassent l'effort de s'abonner, de se réabonner, d'abonner des amis, voilà, ou même d'envoyer des chèques pour recevoir des numéros, parce que les numéros on peut les distribuer.
Ah oui, bien sûr.
Vous envoyez un chèque de 50 euros, vous aurez un paquet de journaux puis vous les distribuez. Il n'y a aucun problème. Quoi. Voilà, des temps. Ce que vous voulez.
Cela dit, je voudrais aussi préciser. Aider. Je voudrais aussi préciser que c'est pas parce que Serge est momentanément indisponible qu'il faut se dire bon, moi je m'abonne pas, ça sert à rien.
Non. Il a. Vous avez vu ce que a dit tout à l'heure le père Argouarche. Bon, il est toujours, il est tout à fait disposé à continuer à se battre. Il se battra.
Je précise aussi qu'il demande tous les jours quand elle va le voir des nouvelles de son journal à Daniel. Alors elle lui a pas dit que les réabonnements c'était pas merveilleux.
Bon bah faites en sorte amis auditeurs.
Ne soient pas obligés de mentir.
Voilà, amis auditeurs et amis de Serge de Beketch, surtout qu'elle ne soit pas obligée de lui mentir. Voilà, qu'elle ne rajoute pas ses douleurs celle-ci.
Bon, son journal, donc, il y pense tout le temps.
110 euros par an ou je sais pas 20 euros, 30 euros, 40 euros. Quand vous recevrez des numéros, il y a des systèmes de
cela dit, en téléphonant.
Voilà, mais il faut bien parler dans le micro, parce que sans quoi on va pas vous entendre.
Mais j'arrive pas à lire sans ce moment. Voilà. Oui, alors en téléphonant au 01 45 23 51 01, bon, vous aurez la liste de tous les accommodements possibles pour ne pas payer tout d'un coup.
Il y a des accommodements avec le ciel.
Voilà.
Merci, cher Jean-Paul Chéri. On vous quitte pas tout de suite parce qu'on va encore parler de votre petit livre Le Matin, mais avant, nous devrions quand même annoncer.
Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas l'appeler Chéri Guess?
Parce que moi je l'appelle, mais moi je l'appelle Jean-Paul, j'ai pas le droit,
non? Non, ça se prononce Chéri Guess, voilà.
Chéri Guess, c'est ça? Oui, parce que j'ai mal dit, non?
J'ai même pas fait attention.
Vous dites Chéri Guess.
Ah, parce que des fois je prononce un peu à la Françoise. Bon, enfin voilà, c'est comme ça, hein. Bon, moi j'appelle Jean-Paul, comme ça c'est réglé.
Très vite les quelques petits messages qu'on a eus.
Alors rapidement, allons-y.
Je rectifie ce qui vient d'être dit. La fête des anges gardiens est le 2 octobre. Et le 3, c'est la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On peut aussi prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
On peut prier tout le monde.
Et l'ange gardien juste avant.
Bien sûr.
Un auditeur désabusé, il faut imposer le halal partout. De toute manière, ça va venir avec les nouveaux collabos. Bah, comme ça, on aura la paix, celle des cimetières.
C'est beau comme formule.
Alors, depuis 2 mois, dans notre diocèse, nous dit cette auditrice, il y a un tract haineux contre le motu proprio. C'est signé Monseigneur Boulanger.
Bélanger. Parce qu'il n'y a pas de boulanger, ni de mitron, hein, encore dans l'épiscopat, mais il y a un bélanger. Ben oui, mais ça, plutôt que de dire ça, c'est mieux de nous envoyer les documents. Moi, je l'ai, de toute façon. Mais il faut envoyer les documents, amis lecteurs. Il faut nous envoyer ça au 61 Boulevard Mira, 75-016 Paris. Vous envoyez ça à Denis Amiche, ce sera dans ma case. Envoyez-moi toutes ces petites choses que vous trouvez sur le motu proprio dans mon diocèse.
Oui, tout.
Fais collection. Moi, je suis une petite abeille qui fait miel de toutes fleurs.
Pouvez-vous parler de la célébration du millénaire de la basilique Saint-Rémy de Reims le dimanche 7 octobre?
Eh ben, non,
Je suis surprise qu'on n'en parle nulle part.
C'est tout à fait vrai. Il faut dire que tout a été très discret. Il n'y a pas eu beaucoup d'informations journalistiques là-dessus. Il y a un site internet qui est dédié à ce grand anniversaire qui, malheureusement, n'a pas été traité. Et je dois dire que, l'ayant moi-même appris très tardivement, parce que les journalistes comme nous, Radio Courtoisie, au Libre Journal de la France Courtoise, nous ne recevons rien. Nous n'existons pas. Nous sommes des ectoplasmes, des espèces de gens qu'on voit à travers nous, tant mieux, bon, etc. Et donc,
En plus, on nous pille à coup de photocopie.
Et on photocopie.
Alors, une fidèle auditrice nous dit, on aime beaucoup Daniel Amiche.
C'est gentil, madame, merci beaucoup.
Qu'il fasse donc comme faisait Serge de Beketch, qu'il invite des gens de tous bords et passionnants, même quand ils sentent le soufre.
Oui.
Et faites revenir le docteur Plantet.
Bah attends,
ces gens-là, on les aime.
Je reçois Jean-Paul quand même. C'est quand même pas mal, non?
Et on faites revenir Plantet. Et on reste fidèle au mercredi.
Voilà. Bah écoutez, restez fidèle au mercredi. Moi, je ne serai pas toujours là, de toute façon non plus. Hein. Tôt ou tard, je serai enlevé à votre affection, cher ami auditeur. Mercredi prochain, vous aurez Bernard Anthony pendant 3 heures. Alors,
pour le moment, maintenant, je vous fais les petites annonces.
Nous allons faire à vous commencer, moi une.
Ah bah non, c'est
vous trois, moi quatre.
Il faut que je fasse attention parce que ça peut être la même que la.
Non, alors attention.
Est-ce que vous faites le ciel?
Oui.
Et par-dessus le toit. Bon.
Oui. C'est moi ça, le ciel.
Alors, au mois d'octobre, le mois du rosaire. Donc, le samedi 6 octobre, à la basilique cathédrale de Saint-Denis, commence à 14h la neuvaine du rosaire pour la vie. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01 43 87 81 70.
Eh bien, c'est bien d'aller à Saint-Denis prier le rosaire pour la vie et... ceux qui se joindront à cette prière du rosaire dans la cathédrale de Saint-Denis auront aussi une intention pour l'évêque de Saint-Denis, Monseigneur de Béranger, et également pour son, j'allais dire, son confrère, et non pas son complice, pour Monseigneur Claude Choquert, évêque de Belfort-Montbéliard, qui ne semble pas avoir pour la vie les mêmes scrupules que cette pieuse association de prières de rosaire. Je suis un petit peu énervé avec cette histoire, je veux dire. Ça fait deux semaines que je la balance, mais vraiment, là, j'en ai un peu gros. Parce que, en même temps, j'ai beaucoup d'éléments, parce qu'il y a eu une réponse qui a été faite par le service diocésain de communication. Vraiment, que si j'avais trois sous dans ma poche, je prends le train et je vais lui mettre une paire de claques au directeur de la communication. Pardon?
Je dis pif, paf, je
pif, paf, poum, même, d'ailleurs.
On sait même pas s'ils sont catholiques à ce niveau.
Bah, là, ils le sont pas, visiblement. Parce que ça, c'est pas catholique, ouais. Alors, à moi, c'est à mon tour. Alors, je signale donc, une nouvelle exposition. Un très très bon camarade que je salue parce qu'il m'écoute, je suis sûr. Nous avons déjeuné ensemble dimanche, vous voyez, c'est un peu comme ça, c'est le copinage, la Radio Courtoisie, c'est connu. Hein. Il s'appelle Michel Ney, c'est un formidable peintre, un formidable graveur et un homme très très sympathique, grand ami de la radio, ça je peux vous le garantir, qui fait une nouvelle exposition qui s'appelle Fleurs et paysages. Et ça fait penser qu'il faut que je rappelle notre camarade Cécile Adem. Il fait longtemps que je l'ai laissé tomber, là, pour mon Dieu Jésus. Il faut qu'elle me pardonne si elle m'écoute, mais vraiment, je suis un peu soucieux en ce moment. Très belle. Donc, le vernissage a lieu le samedi 6 octobre, et l'exposition durera jusqu'au dimanche 18 novembre. Alors, on a le temps, je vais le dire tout de suite, je vais vous dire. Atelier Michel Ney. N-E-Y, comme le
marque.
Il a déjà son boulevard, donc il ne faudra pas qu'il nous vienne nous casser les pieds pendant un second. Moi-même, j'en ai pas, donc voilà. Hameau des Lais, L-A-Y-E-S, Hameau des Lais, L-A-Y-E-S, c'est face à la chapelle, et c'est aux Essarts-le-Roi. Les Essarts-le-Roi, donc c'est 78-690, les Essarts-le-Roi. Alors, le vernissage, ce sera le 6 octobre à 15h, et puis ensuite, du 6 octobre au 18 novembre, les samedis, dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h. Renseignez-vous, vous avez un téléphone et un fax à votre disposition, c'est 01 30 41 66 67. 01 30 41 66 67. Moi, vraiment, j'apprécie énormément ce que fait notre ami Michel Ney. J'aime la vraie peinture, les choses fines, les choses qui sont bien vues, alors beaucoup de paysages, Île-de-France et tout, c'est superbe. Voilà. Je l'ai dit. Bonsoir Michel.
Suivante.
Oui. Vous laissez pas distraire par les messages.
À Duquesne Diffusion, le 27 avenue Duquesne dans le 7e. Prochaine dédicace, le samedi 6 octobre de 15h à 18h, Michel de Poncin pour La luxure régnait sur la ville et la ville était bleue. Renseignement au 01 45 55 87 55.
Alors là, le temps passe, Jean-Paul, il va falloir que je vous réinvite, hein, j'ai peur qu'on n'y arrive pas. Bon, faut dire quand même deux, trois petits mots. Bon, simplement, donc le Centre International d'Études Liturgiques, ça fait 20 ans qu'il se donne du mal pour faire la promotion de la vraie, de la belle, de la grande liturgie grégorienne. Maintenant, cette nef, qui a été tellement agitée de vents contraires, en France et ailleurs, arrive au bon port, c'est-à-dire à Rome, à Ostie, disons, avant d'aller à Rome, voilà, ils vont débarquer à Ostie, et ils organisent une grande session de formation et de liturgie, et de conférences, et de magnifiques cérémonies, à Rome, au mois de, je crois que c'est au mois de novembre, c'est du 14 au 17 novembre. Je n'en dis pas plus, car nous recevrons, le responsable de la communication du Centre International d'Études Liturgiques dans 15 jours, mais si vous souhaitez déjà vous renseigner sur le programme de ces 3 jours extraordinaires, vous téléphonez au 04 34 88 14 00. 04 34 88 14 00.
Alors, les conférences à l'Institut du Bon Pasteur, Centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, dans le 2e, annoncent une session de théologie le samedi 13 octobre de 9h à 17h, pour le centenaire de l'encyclique Pacem Dii contre le modernisme, le destin emblématique de l'abbé Loisy par l'abbé Guillaume de Tannouarne. Renseignements et inscriptions 01 40 26 41 78.
Et connaissant le Tannouarne et connaissant le Loisy, ça va être très très intéressant ce que l'abbé de Tannouarne va dire de Loisy.
Renaissance catholique,
voilà, oui.
32 ans après la loi Veil. 17e marche pour la vie, Paris, samedi 13 octobre, marche au flambeau de Notre-Dame des Victoires au Sacré-Cœur de Montmartre. Rendez-vous à 17h30 devant la Notre-Dame des Victoires. Métro Bourse. Et puis, le mardi 16 octobre, à 18h30, aura lieu en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay la messe de Requiem pour le repos de l'âme de Marie-Antoinette, reine de France, guillotinée ce jour de 1793 à la suite d'un procès inique.
Voilà, alors c'est simplement, il y a un auditeur qui nous écoute par DSL, donc sur l'Internet. C'est fait, ça. Comment c'est pas, parce qu'elle me trouble tout le temps, elle fait exprès d'ailleurs, elle essaye de me déstabiliser, je ne me laisserai pas déstabiliser. Alors, bon, un auditeur très gentil, qui s'appelle Fabien d'ailleurs, je le salue, puisqu'il semble qu'on se soit parlé lors d'une journée du livre de Radio Courtoisie, je le salue, me dit que je confonds Morteau et avec Montbéliard. Non, je ne confonds pas, cher ami. Et il me dit, Montbéliard est un ancien pays calviniste et luthérien. Il y a la saucisse de Morteau et il y a la Montbéliard.
Il faut mettre les deux dans la vraie choucroute.
Voilà. Alors il dit, parce que lui, il est franc-comtois, donc il connaît très bien son affaire.
Il préfère la choucroute, il nous dit.
Oui, ça se met dans la choucroute,
mais il préfère la choucroute de là-bas plutôt que l'alsacienne.
Chacun, c'est normal, chacun défend ses petites traditions, ses grandes traditions du
terroir. Ratatouille monégasque, c'est pas la même,
il n'y a pas le même goût. Ça, c'est sûr. Bon, c'est tout ce que vous avez à nous dire.
Oui. Le 1er octobre, s'est créée une association.
C'était mon anniversaire, je rappelle pour mémoire quand même. Vous n'êtes pas en droit de leur souhaiter, les gars.
Bien, le jour de votre anniversaire. Pour promouvoir le rite tridentin sur le département de Eure-et-Loir, une association qui s'appelle Pro Tridentin. Son site est www.protridentin.com.
Eh ben, donnez-moi ça m'intéresse beaucoup, ces petites informations, avec votre permission. Non, mais que j'en ai besoin pour d'autres choses.
Je vais la photocopier pour vous. Parce que je la laisse au secrétariat pour les auditeurs.
Mon pauvre Jean-Paul, alors,
Pour un auditeur oui. qui demande si le père Blin s'appelle Philippe, c'est Hubert.
Jean-Paul, on va vous réinviter si vous le voulez bien, parce que ce petit livre est tout à fait, peut faire un super petit sujet, magazine. C'est un livre qui s'appelle L'homme à table. Alors, quelle idée de faire un petit livre comme ça? Parce que c'est un petit livre, ça fait 70 pages.
C'est une conférence qui m'a été commandée. Et puis, il y a des dames un peu sourdes qui m'ont dit, on aimerait avoir le texte quand j'ai prononcé la conférence. Et avec le manuscrit, alors je l'ai fait saisir. Puis j'en ai fait tirer, bon, j'étais 5-6 exemplaires pour le faire lire à Serge, entre autres. Et un soir, dans le studio ici, j'avais ça devant moi. Il y avait Benoît Moncheron qui était au micro à côté, qui m'en a piqué un, qui a regardé. Il m'a dit, oh, j'aimerais bien lire. Je lui ai dit, et il m'a appelé 3 semaines après.
On l'imprime.
Et il m'a mis ça dans les mains.
On l'imprime. Deux minutes, parce que c'est une espèce de il nous reste 4 minutes. C'est un survol de la cuisine depuis l'homme des cavernes jusqu'à nos jours.
Et puis en même temps, alors il y a ça, bon, et puis il y a aussi un peu l'histoire de la cuillère, de la fourchette, de la table, de la nappe, mais tout ça vraiment en survol, hein, puisque ça pourrait être approfondi. Mais enfin, le seul truc qui me fait plaisir, c'est qu'on me dise, parce qu'il y a une vraie synthèse. Alors bon.
Oui, c'est très bien, parce que on apprend beaucoup de choses. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on apprend beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez une grande connaissance du sujet. Mais là, c'est une synthèse.
Oui.
C'est pas un truc pédant. C'est très, très, très agréable sur la façon de, les expressions. Qu'est-ce que dresser la table, par exemple? Qu'est-ce que, comment peut-on dire le coup de fourchette de Louis XIV qui ne mangeait qu'avec ses doigts? Qu'il trouvait que ça faisait un peu homosexuel de manger avec des fourchettes, donc il ne voulait pas.
Il y a des tas de trucs comme ça. Il a introduit la fourchette.
Ah oui, c'est lui. Oui, mais enfin, bon, ça n'a rien à voir. Avant, c'était en Italie parce qu'il n'était pas sur l'Italie.
Non, mais Louis XIV, référence à Henri III, je n'ai peut-être...
Ah oui, j'entends, mais bon, c'est peut-être qu'une rumeur, d'ailleurs, je te dis par parenthèse.
Oui, bien.
Il est passé par l'Italie, mais il a...
C'est quand il est revenu de Pologne, il a découvert les fourchettes à Venise.
Alors, vous trouverez ce petit livre, petit par la taille et le poids, mais très élégamment fait, comme tout ce que fait le camarade, vraiment, Manchon, c'est un mal de chien. Le petit livre, L'homme à table, on en reparlera, on va parler aussi de ça tout de suite. De Jean-Paul Chériguès de Olmeta, donc vous trouvez ça à la librairie France Livre, chez Duquesne Diffusion, je suppose, dans toutes les bonnes librairies et même chez certains charcutiers. Il paraît qu'il y en a qui en ont aussi, qui ont mis en vitrine comme ça entre une tête de veau
dans ma rue,
pied de porc à la Sainte-Menoule.
Ma charcutière en a pris deux qu'elle a mis dans sa vitrine.
Ben voilà.
Il faut dire qu'il ça
c'est
coûte
très joli.
10 euros.
10 euros, non, c'est pas cher donc du tout. Vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Victoria, vous qui avez bon goût? C'est ravissant, non?
Comme tout.
Hein, c'est presque un ouvrage de dame comme présentation avec un petit motif tout en couleur de potirons, de courses, de machin. C'est très, très beau.
C'est le début d'une collection parce que je me suis attelé un petit machin sur la franc-maçonnerie.
Parfait. Eh ben écoutez, ça, on vous invitera. C'est pour ça.
Vous allez aussi avoir.
Alors voilà, donc, en souscription, très important, édition Via Romana propose en exclusivité aux lecteurs du Libre Journal de la France Courtoise et aux auditeurs de Radio Courtoisie le prochain ouvrage de notre camarade Jean-Paul Charigues de Olmeta, avec un avant-propos de Maurice Druon, s'il vous plaît, quand même, c'est pas rien, qui s'appelle Mes Décadences. Mais c'est Décadences, D-E-C-A-D-A-N-S-E-S.
Et c'est fait exprès.
C'est superbe. Alors, ce sont vos chroniques. Je veux dire que la couverture, je n'en vois ici qu'une reproduction noir et blanc, elle est superbe, c'est un portrait de
par Barbara Ivanov.
Bah c'est sublime, c'est très beau.
Au salon,
c'est beau. Hein.
Gueule, oui, non.
Bah, vous faites porter truré de votre vivant. Bah, alors c'est pas mal, ça quand même. Bon. Écoutez, c'est Via Romana, donc ça va faire à peu près 400 pages. Ça paraît à la fin de ce mois, logiquement, dans les derniers jours du mois. Et c'est les 5 années d'actualité. People, entre guillemets, ce qu'on n'a pas le droit de dire ça, donc des célébrités, disons, voilà. De notre ami Jean-Paul dans toutes ses collaborations au Libre Journal et à d'autres publications aussi intéressantes. Donc si vous voulez souscrire pour 30 euros franco ou 30 euros francs de port, voilà. Pareil qu'ils vont payer les deux, c'est ça, j'ai bien pris mal son, vraiment. Alors vous envoyez 30 euros à Via Romana, 5 rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles, 5 rue du Maréchal Joffre, 78 Versailles. Je précise que c'est une souscription, ce sera plus cher après. Et puis, vous pouvez demander d'avoir une dédicace. On le gardera de côté, on le gardera au chaud. Et notre ami Jean-Paul sera un grand honneur de vous dédicacer ça. Puis s'il veut pas, moi je le ferai à sa place. Alors voilà, donc mercredi prochain, vous aurez notre ami Bernard Anthony pour 3 heures d'émission. D'ici là, bien sûr, priez beaucoup pour la santé de Serge. Nous nous retrouvons dans 15 jours. D'ici là, que Dieu nous garde.
Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net.
Merci de passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle que tout à l'heure à 21h30, vous pourrez suivre le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau. Et puis ensuite à 23h, rendez-vous avec Sandrine pour une heure de musique. Au programme ce soir, eh bien, vous entendrez des Ensaladas par le Stadium Musicae Valencia et Esperion 20. Des ensembles musicaux sous la direction de Jordi Savall, donc tout à l'heure à partir de 23h. Et puis tout de suite, donc, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Je vous rappelle que cette partie d'émission est préenregistrée et que malheureusement, nous ne pourrons prendre vos messages. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech, dirigé par Daniel Amiche, seconde partie préenregistrée le 27 septembre 2007 et diffusée pour la première fois mercredi 3 octobre 2007 de 18h à 21h, jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission car elle a été préenregistrée, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
C'est pour la Sainte Russie.
Eh bien bonsoir à nos amis auditeurs qui nous font l'amitié de nous rejoindre pour cette seconde partie du Libre Journal de Serge de Beketch du 3 octobre 2007, dirigé par Daniel Amiche, mais seul puisque c'est une émission qui est préenregistrée, donc à mon grand regret. Nos amis auditeurs ne seront pas dans la capacité de nous envoyer les messages que nous aimons tellement lire à l'antenne et auxquels nous essayons parfois de répondre, mais pas toujours, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de répondre à tous les messages. Cette seconde partie, comme je l'avais annoncé mercredi dernier, un sujet un peu politique, géopolitique, et quelque chose de très sentimental pour les Français, du moins j'espère, en tout cas pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que nous avons parlé du Liban, à l'occasion du passage rapide, un peu inopiné, d'une personnalité libanaise que je vais avoir tout bientôt l'occasion de vous présenter. Alors, nous avons donc deux Libanais dans ce studio. Le premier est relativement connu, nos amis auditeurs, puisqu'il est déjà venu très souvent au micro de Radio Courtoisie, c'est notre ami Richard Haddad. Bonsoir Richard.
Bonsoir Daniel.
Alors Richard Haddad, vous le savez, est éditeur à Paris. Il est le dirigeant des éditions Godefroy de Bouillon. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Et puis, il trafique un petit peu aussi à Chrétienté et Solidarité. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Enfin, voilà. Bon, c'est un vieux camarade avec lequel on a beaucoup de sympathie et un des amis libanais de notre camarade Bernard Anthony. Et puis, vraiment, une grande joie, beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur aussi, que nous fait notre ami Sami Gemayel. Bonsoir Sami.
Bonsoir Daniel.
Alors Sami Gemayel nous vient du Liban, il va repartir bientôt au Liban, cette émission a été enregistrée encore une fois. Et je vais d'abord présenter peut-être rapidement Sami Gemayel. C'est un jeune homme très sympathique, de 27 ans, encore célibataire, ça c'est pas bien. Et il appartient à cette grande famille libanaise qui est la famille des Gemayel, une espèce de dynastie extraordinaire qui est active depuis plus d'un siècle au Liban. Mais voilà, on connaît bien le grand-père, enfin les Français le connaissent un peu, Pierre Gemayel, qui était le fondateur des Kataeb au Liban. On connaît également son père, qui est Amin Gemayel, qui a été donc le président du Liban pendant un certain nombre d'années, dans des années très difficiles, mais le Liban semble depuis 30 ans ne vivre que des années difficiles. Et puis, c'est le neveu de Béchir Gemayel, très connu des auditeurs de Radio Courtoisie, qui est un martyr de la cause patriotique libanaise, et également donc le frère cadet de Pierre Gemayel, qui lui aussi a été assassiné. Donc c'est une famille à la fois très emblématique de la résistance libanaise, et également une famille martyr. Donc on est très ému de vous recevoir sur Radio Courtoisie aujourd'hui pour parler de la situation actuelle et puis de l'ensemble de vos engagements, car vous êtes un jeune homme extrêmement actif dans la défense de votre patrie. Vous essayez de trouver des solutions pour sortir de cette crise dans laquelle le Liban semble avoir pieds et poings liés depuis tant d'années. Victime qu'il est d'être un petit pays qui a eu une grande particularité dans l'histoire, et pas seulement depuis le 19e siècle ou le 20e siècle, c'est un très ancien pays, et très digne pays, puis il est cité dans la Bible, donc c'est vous dire, c'est pas rien, ça remonte quand même à beaucoup d'années. Mais également en proie à une structure très particulière qui aujourd'hui semble arriver en bout de course, le pacte libanais traditionnel, qui a été un modèle, ou tout le moins un modèle pour nous, Français, semble aujourd'hui arriver en bout de course, et puis victime de son environnement géopolitique, avec deux puissants voisins, au nord la Syrie, qui n'aurait envie c'est que de faire une bouchée du Liban, et au sud Israël, qui souhaiterait aussi créer un espace de protection de ses propres frontières, en croquant un gros morceau du Liban. Donc c'est très compliqué pour les Libanais d'arriver à trouver une solution à leurs problèmes, et d'essayer de maintenir, vaille que vaille, une identité mérité par son histoire et puis par le sang des martyrs récents. Notre ami Sami Gemayel a été le membre fondateur, voici deux ans, d'un nouveau, je dirais pas un nouveau parti, mais un nouveau courant, un club de réflexion, un laboratoire d'idées, qui s'appelle, pardon pour mon l'arabe qui est pas très très fameux, déjà que mon français n'est pas très bon, mais alors l'arabe c'est encore pire, qui s'appelle Lubnanouna, c'est ça, Lubnanouna, qui veut dire notre Liban. Et il est aussi très actif dans le parti Kataeb, puisqu'il est le directeur ou l'animateur, le responsable des jeunes Kataeb, qui sont très nombreux, on les voit d'ailleurs de temps en temps à la télévision, dans les reportages, on en a vu quelques-uns ces derniers mois. Ils sont très actifs, très dynamiques, très patriotes. Voilà. Alors c'est un Sami Jemayel, est un chrétien maronite, et je vais lui demander d'avoir la gentillesse de commencer à répondre à nos questions, et alors évidemment notre ami Richard Haddad aussi sera amené à lui poser des questions. Moi je ne suis pas un grand spécialiste du Liban, j'ai beaucoup d'affection pour le Liban, mais je ne le connais pas suffisamment. Alors, c'est préférable d'ailleurs, vaut mieux aimer quelqu'un sans trop le connaître plutôt que de ne pas aimer quelqu'un en le connaissant. Vous êtes d'accord, tout le monde est d'accord, bien sûr. Voilà, alors, moi j'aime beaucoup le Liban, j'aime beaucoup les Libanais, comme beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie d'ailleurs, et comme une échéance politique arrive pour le Liban, on a vu, il y a un peu d'actualité en ce moment, puisqu'encore un député Kataeb a été assassiné le 17 septembre dernier, dans une voiture qui a explosé. Ce n'est pas un problème de contact électrique, ni un problème de moteur, il s'agit véritablement d'un attentat. Et l'échéance politique qui se rapproche, c'est celle de l'élection du président de la République libanaise. Alors, Sami Jemayel, essayez de nous faire un portrait, de nous dresser, nous brosser un portrait de la situation politique au Liban qui est très compliquée. Elle est compliquée pour les Libanais, et alors pour des Français, vous imaginez qu'elle est encore beaucoup plus compliquée.
Eh oui, parce que tout simplement, le Liban est un pays très complexe, dans le sens que la société libanaise est une société multiculturelle et multicommunautaire, ce qui fait que la relation des citoyens,
un tout petit peu plus fort,
d'accord, la relation entre les citoyens libanais n'est pas une relation habituelle, comme on peut le voir dans des États, ce qu'on appelle des États-nations, comme la France ou autres. Eh bien, le Liban est un spécimen rare. C'est un des seuls pays où nous avons autant de communautés religieuses. Nous avons 18 communautés religieuses au Liban, 12 communautés chrétiennes, 5 communautés musulmanes et la communauté juive. Donc voilà, ce qui fait que la relation entre toutes ces communautés est très difficile à gérer. Et le Liban tant bien que mal d'essayer de concilier entre ces communautés et ces cultures. Et cela depuis la naissance du Grand Liban, l'État libanais moderne, contemporain, qui a été proclamé en 1920 par les forces mandataires françaises. Et depuis la naissance de cet État, les Libanais tentent de trouver la meilleure façon de vivre ensemble. Et vous avez parlé tout à l'heure du pacte libanais, le pacte qui s'essouffle. En fait, il faut bien faire la différence entre deux choses. La première, c'est le pacte libanais qui est le pacte de coexistence entre chrétiens et musulmans qui ont décidé de vivre en commun dans un pays qu'on appelle le Liban, dans ses frontières reconnues internationalement. La formule libanaise, c'est elle qui s'essouffle, ce n'est pas le pacte. Parce que tous les Libanais aujourd'hui veulent vivre ensemble. Personne ne veut faire une partition ou bien qu'il y ait un découpage du Liban dans le sens de la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie ou autre. Non, au contraire, les Libanais veulent vivre ensemble, mais ils cherchent une nouvelle façon de vivre ensemble. Et c'est là où se pose le problème de la formule libanaise, qui est en fait une formule constitutionnelle. Nous sommes à la recherche d'une formule constitutionnelle, une nouvelle formule constitutionnelle, pour que les Libanais, dans toute leur communauté, puissent vivre ensemble en paix, sans qu'il y ait chaque 5 ans, chaque 10 ans, une guerre ou une crise politique qui se termine, malheureusement, la plupart du temps dans le sang.
Dans un bain de sang, mais qui affaiblit la nation libanaise. Alors il y a donc, vous le soulignez, Et vous vous emportez le garant, une volonté de vivre ensemble des Libanais. Mais toutefois, ce pays est victime aussi de ses voisins, non seulement de ses voisins immédiats, même de ses voisins un peu plus lointains. Et il y a un certain nombre de communautés au Liban qui regarde qui vers la Syrie, qui vers Israël, qui maintenant aussi vers l'Iran, parce qu'il y a ce nouveau phénomène qui est arrivé tout à fait récemment du Hezbollah. Enfin, Hezbollah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le parti. Approchez-vous, Richard, parlez bien. C'est le parti de Dieu, le Hezbollah, qui lui a des attaches avec l'Iran assez, semble-t-il, assez étroites. Et puis il y a une partie de la classe politique libanaise. Qui semble vraiment inféodé aux puissants voisins syriens, et puissant évidemment par son rapport de force. C'est comme un pays de taille moyenne comme la Syrie, mais enfin il est surtout dirigé d'une main de fer par le, alors je peux pas dire le clan parce que je vais me faire encore entraper, mais enfin par la famille actuellement régnante.
Assad.
Voilà, c'est ça. Bon. Alors comment pouvoir gérer ça, comment arriver à vivre ensemble dans parce que le vivre ensemble de communautés différentes dans le multiculturalisme qui est le vôtre et multireligion aussi qui est le vôtre peut donner à certaines communautés la tendance de s'appuyer sur un voisin puissant étranger pour essayer d'affirmer une plus grande force. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger d'une intervention, enfin on le constate, mais constante des puissances de voisinage et même de puissances un peu plus lointaines?
C'est vrai, tout ce que vous dites est exact. Mais d'abord, pour que les auditeurs puissent mieux comprendre la situation, on va, si vous le permettez, revenir à la case départ, puisqu'on a un peu de temps devant nous, donc on va se permettre d'étayer un peu plus et d'offrir aux auditeurs une image assez claire et assez nette. Nous allons revenir à la naissance du Liban. Dès la naissance du Liban, en 1920, et il faut comprendre que le Liban contemporain a été fondé sur une base. Cette base, c'est le mont Liban, c'est la montagne libanaise dans laquelle vivaient les Druzes et les chrétiens. Et autour de ce mont Liban, autour de cette montagne, le Liban a pris, a été dessiné par les puissances mandataires. Dessiné, en fait, c'est pas le mot juste, on va dire plus, parce que finalement les frontières libanaises sont des frontières naturelles. Donc ces frontières des 10 452 km² qui sont les frontières actuelles du Liban sont des frontières naturelles, et en même temps elles sont fondées sur ce qu'on appelle la montagne libanaise. Donc autour de la montagne libanaise, on a la Bekaa, la plaine de la Bekaa, on a le sud et on a ce qu'on appelle le nord avec le Hakkar qui sont... Donc on va avoir, pour avoir une bonne géographie, on va dire que le nord est plutôt sunnite, on va dire que le sud est plutôt chiite, on va dire que la Bekaa est plutôt chiite, et la montagne libanaise, le gros de la montagne libanaise est chrétien, avec bien sûr une minorité druze. Donc, en 1920, la nouvelle donnée, c'est justement un changement démographique, puisque le Liban n'est plus druso-chrétien, mais le Liban est devenu sunnite, chiite, chrétien et druze à partir de 1920, puisque des régions du sud et de la Bekaa et du nord vont se rallier à l'ensemble qu'on appelait le Mont Liban. Donc, à partir de là, une nouvelle donnée, un nouveau Liban est né. À partir de 1920, c'est un Liban qui est ouvert à toutes les communautés chrétiennes et musulmanes dans le monde entier, en fait. Que ce soit chiite, sunnite, chrétien orthodoxe ou chrétien catholique ou maronite ou arménien, ou toutes ces communautés religieuses sont représentées aujourd'hui au Liban. Et c'est là que chacune de ces communautés, et c'est là le problème, le fond du problème libanais, chacune des grandes communautés libanaises qui sont druzes, chiites, sunnites et chrétiennes, chacune de ces quatre communautés va essayer, chacune à son tour, de prendre les rênes du pouvoir au Liban. Et voilà le premier problème du Liban, qui est un problème interne, avant de parler du problème externe, qui est le problème syrien, palestinien et israélien. Donc le problème interne, c'est ça. C'est que ce sont plusieurs communautés qui se sont vues soudain au sein d'un même État, et chacune va essayer, chacune à son tour, de prendre les rênes du pouvoir. Étant donné que les Français ont été présents entre 1920 et 1946, ce sont d'une façon naturelle les chrétiens qui prennent les rênes du pouvoir au Liban, et surtout qu'à l'époque les chrétiens étaient majoritaires démographiquement, et qu'ils sont à la base de cet État, oui, puisque ce sont voilà. Les chrétiens qui vont travailler au niveau de la société internationale et qui vont réclamer la naissance de ce grand Liban.
Un statut national. On peut dire que la nation libanaise et l'État libanais s'est constitué autour du noyau chrétien.
D'ailleurs, ceci juste, excuse-moi Richard, pour être précis, c'est le patriarche maronite en 1919 qui va aller signer le traité de Versailles.
Il représente Paris, la communauté de
qui
base.
Qui représente le Liban.
Entier, bien sûr.
Qui réclame la naissance du grand Liban. Et c'est le patriarche maronite qui est à la tête du comité libanais qui va aller en France pour négocier justement la naissance du grand Liban. Ce qui est un argument en faveur pour expliquer comment les chrétiens sont à la base de l'État qu'on appelle aujourd'hui l'État Liban. Libanais.
D'autant plus, Richard Haddad. J'ajouterais qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, en 1920, jusqu'au moins à l'indépendance, au moins, une grande partie, pour ne pas dire la grande majorité des musulmans sunnites à l'époque, parce qu'on ne parle pas des chiites, politiquement nouveau, là, la puissance politique chiite au Liban est nouvelle démographiquement, ils ont toujours été présents mais ils n'étaient pas aussi puissants. Les sunnites de l'époque, je précise, étaient en grande majorité favorables à un grand royaume arabe, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas. Tout ça a changé aujourd'hui, bien évidemment. Mais au départ, de 1920 à 1936, au moins, si ce n'est à 1943, l'État du Grand Liban n'était pas reconnu par une grande partie des hommes politiques sunnites. Ça a changé petit à petit après, notamment, tout ça a été négocié par l'indépendance, etc. On ne va pas rentrer dans les détails.
C'est intéressant. Ce que vous dites est intéressant. Mais comme le soulignait Samy il y a quelques instants, la chose était compréhensible dans les années 20, puisque les chrétiens, une fois le Grand Liban constitué, représentaient à peu près la moitié de la population.
C'était un peu plus.
Un tout petit peu plus que là. C'était la majorité, en quelque sorte. Bien. Aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des statistiques fiables, évidemment, c'est très compliqué, mais on estime que le poids des chrétiens, l'ensemble des chrétiens au Liban, est un peu plus du tiers, en peut-être 35%. Ça veut dire qu'il y a quand même un rapport de force qui a basculé en faveur du monde musulman, et que dès lors, si l'on appliquait les lois de la démocratie habituelle, un homme, un vote, et il est clair que depuis longtemps, toutes les institutions libanaises auraient été en quelque sorte subverties par les musulmans. Alors, l'intérêt, c'est que les musulmans ne sont pas eux-mêmes très unis, ils sont divisés au moins entre sunnites et chiites.
Je voulais poser une question, justement.
Oui, posez bien sûr.
Votre question est intéressante, mais je voulais la compléter. Alors, moi, j'ai eu plusieurs affirmations des uns et des autres sur le nombre des chrétiens. Personne n'en sait rien, évidemment, il n'y a pas eu de recension, mais certains disent plus du tiers, d'autres me disent, mais non, c'est un peu moins que la moitié. On n'en sait rien, mais on m'a mis à plusieurs reprises en garde au Liban contre cette idée reçue et propagée souvent en France par certains médias, par certains journalistes, surtout par ignorance d'ailleurs, que les chrétiens du Liban ne sont plus que 25% de la population. Je l'ai lu une fois, j'ai lu 25%, j'ai entendu à la télé un tiers, etc. Et on me dit que c'est un peu la propagande de ceux qui ne veulent plus de chrétiens au Liban, oui. qui fait que qui soutient cette thèse-là, qu'ils sont de moins en moins nombreux. Alors, est-ce que c'est vrai? Je pose la question. Je vous demande pas de me donner un chiffre précis, personne n'en sait rien, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi exagéré de dire qu'il n'y a presque plus de chrétiens au Liban?
Avant de répondre à ces questions plutôt précises, avant de rentrer dans les détails, surtout au niveau de l'actualité du Liban, il est très important pour les auditeurs d'avoir une petite rétrospective pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde quand on va parler de l'actualité. Donc, ce qu'il faut préciser, et j'en étais arrivé à la constitution de ce qu'on appelle le Grand Liban en 1920. Ce qu'il faut préciser, c'est que, comme tu l'avais dit, beaucoup de musulmans sunnites à l'époque, parce que les sunnites avaient plus de pouvoir politique que les chiites à l'époque, donc les sunnites étaient contre justement la naissance de ce Grand Liban et ils demandaient que leurs régions, les régions dans lesquelles ils sont majoritaires, soient fassent partie de la Grande Syrie, de la Syrie, de la République syrienne en fait, parce que la Syrie est à majorité sunnite. Donc, et ceci n'a pas été pris en compte, a été combattu par d'abord les Français et ensuite par le mouvement nationaliste libanais qui a aussi regroupé des musulmans sunnites, dont le premier ministre Riyad al-Salah, qui est un personnage clé de l'indépendance libanaise, parce que c'est lui qui va donner la couverture musulmane à l'indépendance du Liban. Et donc finalement, ce Liban va se constituer un peu par la force. Parce que la majorité des chrétiens ne voulaient pas d'indépendance, ils voulaient rester sous le mandat français. Et la majorité des sunnites ne voulaient pas de l'indépendance et voulaient intégrer la Syrie.
La Syrie.
Et c'est un mouvement d'indépendantistes dont justement le fondateur du parti Qatar, Pierre Gemayel, et Riyad Salah, qui est aussi un leader sunnite, vont constituer deux piliers qui vont aller dans le sens de l'indépendance du Liban et de la fondation du Grand Liban, avec le soutien du patriarcat maronite. Donc voilà comment est né le Liban. Et depuis l'indépendance, depuis 1943, à chaque crise politique régionale, le Liban est secoué. C'est ça, en fait, la chose clé. Parce que le Liban n'a pas été le résultat d'une volonté naturelle de ses citoyens. Et c'est pour ces raisons qu'à chaque fois que ils en avaient l'occasion, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la constitution de ce Liban attrapaient les occasions pour justement essayer de casser cet état. Pour revenir au problème démographique, le dernier recensement qui a eu lieu est en 1932. En 1932, le recensement a donné 50% aux chrétiens plus 50 000. C'est-à-dire que les chrétiens étaient plus nombreux que les musulmans de 50 000 personnes. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse au niveau démographique. Aujourd'hui, personne ne peut dire quels sont les chiffres exacts, parce que toutes les communautés font un blocage sur le recensement. Parce que personne n'a intérêt à ce que les autres sachent quel est le poids démographique de chaque communauté, surtout que vous avez des minorités très influentes comme la communauté druze, qui est une petite minorité mais qui est très influente au Liban. Vous avez aussi le problème entre sunnites et chiites qui fait en sorte que personne ne veut dévoiler quel est son poids naturel. Et bien sûr, les chrétiens non plus n'ont pas intérêt à dévoiler, parce que leur nombre a bien sûr diminué. Par quel ordre de grandeur, personne ne peut savoir, mais il est évident que le poids démographique n'est plus ce qu'il était en 1943. Donc, ce qui est important, pour revenir aux problèmes internes et externes, il y a un problème interne au Liban entre les Libanais, qui est une concurrence entre les communautés pour la quête du pouvoir, et ce conflit, ou bien cette concurrence, est ce qu'on va dire, les puissances régionales vont investir dans cette concurrence, ils vont jouer un rôle néfaste pour essayer de profiter de la concurrence et des problèmes internes entre les Libanais pour justement avoir leur mot à dire au Liban et d'avoir une carte à jouer au niveau géopolitique ou au niveau de la politique internationale. Et c'est pour ces, et c'est dans ce contexte-là que quand M. Abdel Nasser, qui est le président Abdel Nasser, dans les années 50, quand il va essayer d'établir ce qu'on appelle la République arabe unie, qui va regrouper dans un premier temps l'Égypte et la Syrie, et il va essayer de faire rentrer le Liban dans cette République arabe unie, il y a la moitié des Libanais qui vont se mettre à ses côtés. alors qu'il y a l'autre moitié qui va être opposée à justement cette union, l'union du Liban avec la République arabe unie. Et ce sont les mêmes qui étaient contre le Grand Liban dans les années 30 et dans les années 20 qui vont être en faveur de Abd al-Nasser en 58 et en 56. Donc, et bien sûr, ce sont les chrétiens qui vont s'opposer, en grande majorité, les chrétiens vont s'opposer à la République arabe unie, alors que la majorité musulmane va être en faveur.
Donc les sunnites vont être en faveur de
la République arabe unie. Bon. Dans une deuxième étape, en 75, ce sont les Palestiniens qui vont être la troisième partie qui va faire en sorte que les chrétiens vont se diviser de nouveau. C'est toujours une troisième partie régionale qui va diviser les Libanais entre eux. Et en 75, les musulmans qui réclamaient justement un rééquilibrage au niveau des institutions libanaises, parce qu'il faut noter ce qu'on a oublié qui était très important, c'est que quel est le diapo des institutions libanaises. On a un président de la République chrétien maronite, on a un premier ministre sunnite, on a un président de l'Assemblée qui est chiite. Ce sont les trois présidents des trois institutions les plus importantes. Nous avions une majorité de chrétiens au Parlement, une majorité de 53-54% des députés étaient donné aux chrétiens dans le Parlement.
Pardon, il faut juste préciser pour les auditeurs que le nombre de sièges de députés au Liban est réparti par quota.
Par quota communautaire. Circonscription
chrétienne, maronite,
c'est par quota.
C'est par quota, c'est-à-dire qu'on n'élit pas le député qu'on a envie d'élire. Hein. Il faut que le candidat corresponde au nombre de qui revient à chaque communauté.
D'accord.
Voilà. Donc, le quota des chrétiens était de 54-55% des députés à l'Assemblée nationale, alors que le reste, entre sunnites et chiites, ils se partageaient
le reste.
Voilà, tout à fait. Donc, les musulmans, en 75, avaient le sentiment d'être blasés. C'est-à-dire qu'ils sentaient qu'ils devraient avoir une part plus importante dans ces institutions, notamment au niveau du Parlement et surtout au niveau de la présidence de la République qui détenait le monopole du pouvoir exécutif et qui avait des prérogatives très grandes, ce qui donnait aux chrétiens une position de force très importante au niveau de l'exécutif libanais. Conjugué avec la majorité au Parlement, ce qui donnait en fait aux chrétiens les rênes du pouvoir au Liban. Et ça, c'était une des causes qui ont fait que les musulmans en 75 vont s'allier aux Palestiniens contre les chrétiens libanais dans la guerre des Palestiniens contre le Liban. Donc quand les Palestiniens ont essayé de mettre la main sur le Liban, les musulmans libanais ont trouvé que c'était l'occasion pour eux pour changer l'état des choses au Liban. Mais les conséquences étaient que les Palestiniens ont failli faire du Liban une patrie de rechange, ce qui arrangeait tout le monde, surtout Israël, les Américains. Tout le monde était très content que les Palestiniens mettent la main sur le Liban. Et ce n'est que grâce à la résistance libanaise à l'époque, en 75, que la résistance chrétienne qui a empêché en fait l'établissement d'un État palestinien au Liban.
Je précise, il n'y a pas de Palestiniens au Liban, il n'y a pas de Palestiniens natifs au Liban. Ce sont des autres entre guillemets généreusement les Libanais ont accueilli
beaucoup l'église maronite. La plupart qu'on appelle les camps, qui sont des camps en dur, les camps palestiniens, se sont implantés sur des terres qui appartiennent pour la plupart du temps à l'église maronite, qui les avait offertes.
Il y a eu la même tentative d'ailleurs en Jordanie aussi, qui a échoué aussi en Jordanie de façon tout à fait différente. Bon, mais voilà, évidemment, c'était une solution qui arrangeait le monde entier, sauf le Liban.
Ce qu'on a appelé le plan Kissinger.
Voilà, ça s'est arrangé tout le monde, sauf le Liban, hein, parce que vraiment ça aurait été la fin du Liban.
Bon.
Aujourd'hui, je dis pas que la situation des Palestiniens soit beaucoup plus enviable qu'elle ne l'était à l'époque. C'est un peu compliqué aussi pour eux, il faut dire, dans les bouts de territoire qu'ils ont récupérés. Mais enfin, on l'a vu encore récemment, puisqu'il y a eu Alors ben, c'est très embarrassant quand le phénomène palestinien devient contaminé par l'islamisme le plus radical. On a vu ce qui s'est passé encore au Liban cet été, et ça c'est une nuisance quand même à la puissance 2 pour les Libanais. Il faut dire les choses comme elles sont, quoi. C'est une nuisance. Bon. Et puis il y a ce nouveau phénomène très très troublant, et là peut-être vous allez aussi pouvoir nous en parler, Samy. C'est l'émergence en puissance, la montée en puissance des chiites, donc du mouvement Hezbollah, qui est pas lié à, qui est soi-disant pas lié à l'Iran. Voilà.
L'ouverture de ce sujet tombe à pic puisque l'émergence du Hezbollah va se faire justement à la suite de cette guerre avec les Palestiniens, puisque le mouvement Amal, qui est à la base du Hezbollah, est né en 77-78 donc au lendemain de la guerre entre Palestiniens et Libanais, et ce sera au moment où les Syriens vont commencer à s'impliquer directement dans le conflit et dans la guerre du Liban à partir de fin 76. Les troupes syriennes vont donc envahir le Liban sous le couvert de la Ligue arabe. On ne va pas rentrer dans tous ces détails pour ne pas faire perdre les auditeurs. Donc les Syriens vont rentrer au Liban et vont commencer à jouer un rôle interlibanais. Ils vont commencer à soutenir des mouvances libanaises, dont justement le mouvement Amal, chiite. Et par la suite...
Mais la Syrie n'est pas chiite, en fait. C'est sunnite. Enfin, halawite.
Majoritairement sunnite et dirigé par une minorité halawite.
Voilà, c'est ça qui est important. Le régime syrien est un régime halawite, qui sont stratégiquement alliés des chiites dans la région. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une alliance syro-iranienne entre Assad et Ahmadinejad, parce que, justement, c'est l'alliance anti-sunnite.
D'accord.
Donc c'est pour ces raisons qu'il faut noter que le régime Assad est un régime alaouite qui gouverne une majorité de 85% de sunnites. C'est une dictature, en fait, qui arrive à se tenir en place justement par la force des armes.
Il faut juste préciser, pardon, parce que les auditeurs vont se perdre un peu, ce que c'est les alaouites. En fait, les alaouites sont une secte issu du chiisme. C'est déjà différent. Et comme disait Bernard Anthony, c'est un peu ce que sont les mormons pour les catholiques,
hein,
dans l'islam, les alawites par rapport aux sunnites. Et donc, effectivement, ce que dit Samy, c'est que ce n'est pas toujours lié par des raisons religieuses. Il faut dire que le monde arabe est majoritairement sunnite. L'Iran, qui n'est pas arabe, je le rappelle,
est perse
et chiite. Et la Syrie, dirigée par une secte alawite, est forcément très mal vu par le monde sunnite arabe, et la Syrie, étant un pays arabe, ne peut s'appuyer que sur un pays musulman non arabe.
Voilà. Alors je rappelle pour moi, enfin les auditeurs le savent maintenant, parce que les tragiques événements de l'Irak nous le montrent, c'est que entre sunnites et chiites, on n'en est pas du tout à l'écuménisme comme chez les chrétiens, parce que ça se...
Mais les chiites, dans le monde arabe ne sont qu'en Irak, justement. Il y en a bien sûr en Arabie Saoudite, mais ils ne sont pas du tout au pouvoir.
Et là, ça s'entretue.
Pour continuer, d'où est né le Hezbollah? Le Hezbollah est né en 82 comme étant une mouvance du mouvement Amal appuyé par les Syriens. Et là, un conflit interne au niveau du Hezbollah va durer pendant quelques années entre une mouvance pro-iranienne et une mouvance pro-syrienne qui vont se combattre au sein même d'un Hezbollah qui était encore très petit à l'époque, embryonnaire. Et finalement, avec une intervention militaire syrienne qui va combattre le Hezbollah avec les armes et qui va tuer plusieurs dizaines de membres du Hezbollah, l'armée syrienne directement, c'est finalement la mouvance syrienne qui va s'imposer au niveau du Hezbollah. Par la suite, en 90, nous avons la fin de la guerre du Liban. La fin de la guerre du Liban a été consacrée par un accord qu'on appelle l'accord de Taïf. L'accord de Taïf va justement consacrer...
Taïf, c'est une ville en Arabie Saoudite.
C'est là-bas où ont eu lieu les négociations. C'est pour ça qu'on a appelé cet accord l'accord de Taïf, qui a été bien sûr sous la supervision des États-Unis, de la communauté arabe, donc avec un feu vert international. Cet accord de Taïf va avoir deux conséquences, principalement deux conséquences. La première, c'est de consacrer les revendications historiques des musulmans. C'est-à-dire, on va enlever les prérogatives des chrétiens au niveau de la présidence de la République. La présidence de la République ne va plus avoir les mêmes prérogatives qu'avant. Et la présidence de la République va être mise au même niveau que la présidence du Conseil des ministres. Et en plus de ça, on va consacrer le moitié-moitié au niveau du Parlement. Les chrétiens n'ont plus la majorité au Parlement et n'ont que la moitié. Donc voilà les deux points principaux au niveau interne. Au niveau externe, l'accord de Taïf va donner à la Syrie un feu vert au Liban. Un feu vert international pour que la Syrie puisse faire ce qu'elle désire au Liban. Et l'accord de Taïf va justement contenir des clauses qui donnent à la Syrie un feu vert au niveau des relations internationales, au niveau même de la présence armée syrienne au Liban. Et donc, pour nous, l'accord de Taïf a été un accord d'armistice que les chrétiens vont signer après avoir perdu une guerre.
Oui, voilà, c'est contraint forcé.
Voilà, tout à fait.
Il faut peut-être rappeler que le contexte de l'époque, c'est que le mur de Berlin était tombé, l'Union soviétique était en train de disparaître, et la Syrie venait de tourner sa veste en soutenant
Les Américains
en Iran, la première guerre du Golfe, et contrepartie de cette soutien, les Américains leur ont donné
le feu vert
au Liban.
S'il n'y avait pas eu tant de morts, ça aurait été assez comique, je veux dire, ce revirement diplomatique.
Oui, mais c'est la stratégie des Assad.
Dans le style de ces dictatures.
On appelle, je ne sais pas s'il faut vous rappeler, qu'on appelait Assad père, qui est décédé maintenant, le Bismarck du Moyen-Orient. Pas pour rien.
Donc c'est dans ce contexte que le Hezbollah va continuer à s'imposer avec un appui syrien et le mouvement Amal ce sont les deux frères jumeaux Hezbollah et Amal, ce sont les deux partis chiites pro-syriens qui vont être couverts par la Syrie pour s'armer, pour organiser ce qu'on appellera plus tard la résistance islamique au Liban Sud, qui aujourd'hui on appelle beaucoup plus vulgairement le Hezbollah, qui se trouve au Liban Sud et qui fait tout ce grabuge au niveau de la géopolitique internationale.
Enfin, qui envoie des fusées sur Israël, et ce qui a motivé Casus Belli, l'envahissement l'été dernier donc de la partie sud du Liban par les forces israéliennes, d'ailleurs sans grand succès militaire, je veux dire.
Tout à fait. Il faut quand même préciser, pour être quand même objectif, que Israël occupait le Liban sud jusqu'en 2000 et que jusqu'à cette date-là, la résistance du Hezbollah contre la Syrie était justifiée. À partir de 2000,
contre Israël, bien sûr.
Après le retrait israélien en 2000, la présence des armes entre les mains du Hezbollah est une hérésie. C'est quelque chose qui est acceptable par personne.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un état dans l'état aujourd'hui dans
bien
le
sud? Bien sûr, tout à fait. On va en parler longuement de ce truc. Mais ce qui est important pour terminer du problème du Hezbollah, c'est que le Hezbollah aujourd'hui constitue si vous voulez, la matérialisation de l'accord stratégique entre l'Iran et la Syrie. Parce que le Hezbollah a une idéologie iranienne, très important, une idéologie religieuse, c'est une idéologie politico-religieuse iranienne. Parce que tous les cadres du Hezbollah sont entraînés et sont endoctrinés en Iran. D'ailleurs, le chef actuel du Hezbollah, ce qu'on appelle le secrétaire général du Hezbollah, Monsieur Nasrallah, a reçu une gratification de l'imam Khomeini de l'époque. Donc, dans les années 80, c'est un homme religieux qui est à la tête de ce parti. Donc, c'est un parti complètement religieux, puisque ça, on appelle le parti de Dieu, dont les cadres ont été entraînés, endoctrinés en Iran. Donc nous avons une idéologie iranienne et nous avons un financement iranien et en même temps nous avons une aide matérielle et logistique syrienne. parce qu'il est difficile de faire arriver des armes d'Iran, il est difficile de faire arriver, si vous voulez, toute la logistique d'Iran. Donc cette logistique provient de Syrie, par les frontières libano-syriennes.
Alors, je rappelle à nos amis auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, que nous avons la joie de recevoir ce soir Sami Gemayel, qui est un jeune Libanais, un des membres fondateurs du mouvement Lubna Nouna, dont nous avons parlé d'ailleurs, savoir quel est ce mouvement, qui est aussi le petit-fils du fondateur du parti Kataeb, c'est-à-dire de Pierre Gemayel, donc une grande dynastie patriotique libanaise, et accompagné également dans le studio par notre très bon camarade Richard Haddad, connu des auditeurs de Radio Courtoisie. Nous devons de temps en temps nous identifier pour des raisons administratives, il faut le faire. Très bien. Alors, cette émission, nos auditeurs le sauront pour ceux qui ont pris cette émission en tout début, elle est enregistrée. Donc, ils ne peuvent pas, comme à l'ordinaire, envoyer leur message par Internet et puis aussi par téléphone. Mais par contre, comme il est d'usage également, les courriers que nous recevrons au 61 boulevard Murat seront traités et seront évidemment répondus. Voilà, c'est juste un message. C'est pas ça qu'on l'émission continue, n'ayez pas peur, oui. Richard, oui.
Signaler aux auditeurs les sites internet.
Oui, mais alors, avant de citer les sites, je voudrais que notre ami Sami, qui nous a fait un exposé extrêmement brillant et précis de la situation libanaise, et pour moi, rien que pour moi déjà, je ne regrette pas de faire cette émission parce que j'ai au moins appris quelque chose. Donc je pense pour les auditeurs, ça va aussi très bien fonctionner. Je voudrais que vous nous expliquiez, vous avez créé donc il y a à peu près 2 ans, qui est déjà militant du parti Kataeb, mais vous avez créé quelque chose d'un peu spécifique. Vous allez nous dire pourquoi, à quoi ça sert. Et si j'ai bien compris, il y a là quelque chose de nouveau et quelque chose peut-être de porteur d'avenir pour le Liban. La pire des solutions serait la partition, le démembrement. Évidemment, c'est la solution la plus simple, celle à laquelle justement pensent les esprits simples. Mais c'est vrai qu'au Moyen-Orient, on a l'esprit un peu plus compliqué que ça. Et que si l'on veut que le Liban existe, il va falloir trouver des solutions par rapport à la réalité, par rapport à son histoire, par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport au groupe de pression qui essaie d'écraser cette entité vraiment remarquable qu'est le Liban. Il va falloir trouver des solutions. Alors vous avez créé un mouvement qui s'appelle Lubna Nouna. Alors, Richard Haddad m'expliquait tout à l'heure, parce que moi, je suis pas très fort, mais ça veut dire donc notre Liban. Hein. C'est bien ça, oui. Richard. Hein. Enfin, Sami oui. pourrait dire la même chose aussi, mais enfin, c'est pour faire parler un peu Richard. Voilà, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mouvement Lubna Nouna? Pourquoi l'avoir créé? Dans quel contexte? Et pourquoi faire?
Ce groupe a été créé au lendemain du retrait des troupes syriennes au Liban. Parce que depuis en fait 90, malgré le problème des chrétiens, nous avions comme priorité la libération du Liban de l'occupation syrienne. Donc pendant 15 ans, c'était notre plus grande priorité, c'est notre première priorité, c'était de libérer le Liban des troupes syriennes qui exerçaient une dictature sur le Liban, une occupation et une dictature. Et donc nous avions comme priorité justement de libérer le Liban de cette occupation. Au lendemain du retrait syrien, le 26 avril 2005, date précise du retrait syrien, nous avons commencé à réfléchir à l'avenir du Liban. Nous avons considéré que le Liban, de par la formule constitutionnelle qui a été consacrée en 43 et qui a été qui a été prolongé par l'accord de Taif avec quelques modifications de quotas, mais le système est resté le même, qui est celle d'un État unitaire, centralisé, avec des quotas communautaires. Nous avons considéré que ce système-là met les Libanais en situation de conflit et de concurrence les unes avec les autres. Et que nous avons considéré que cette concurrence-là était devenue conflictuelle au lieu d'être une concurrence bénéfique. Et à chaque occasion, ce système-là est en train de tomber à l'eau. En 58, quand il y a eu Abd al-Nasser qui a essayé de faire sa révolution au Liban, le pacte libanais a failli tomber à l'eau. On a failli avoir une guerre civile. En 75, nous avons eu une guerre civile. En 90, nous avons été occupés par le Syrien pendant 15 ans, et nous considérons que Le système, ou plutôt la formule constitutionnelle libanaise, est à la base de tous ces problèmes. Et c'est cette formule constitutionnelle qui est en train de permettre aux étrangers, en train de permettre à tous ceux qui veulent jouer un rôle au Liban, de pouvoir le faire grâce justement à ce conflit dans lequel cette formule constitutionnelle est en train de mettre les communautés libanaises les unes en face des autres. Parce que il se trouve, vous avez maintenant au Parlement un bloc sunnite, un bloc chiite, un bloc chrétien. Aucune de ces quatre communautés peuvent, et les druzes bien sûr, aucune de ces quatre communautés ne peut prendre à elle seule le pouvoir, à moins de s'allier avec une ingérence étrangère. Et c'est ce qui a toujours eu lieu. Une fois on s'allie avec les Palestiniens, une fois on s'allie avec les Syriens, une fois avec les Israéliens, une fois avec les Iraniens. À chaque fois, c'est pour des calculs internes qu'on ingère comme ça des puissances régionales pour des objectifs internes libanais. Donc, nous voulons en finir avec ce cercle vicieux qui consiste à mettre les Libanais les uns en face des autres et justement provoquer des ingérences étrangères les unes après les autres. Comment faire ça? C'est en, si vous voulez, en donnant à chaque communauté une certaine autonomie pour qu'elle n'ait plus à demander
chercher des alliances.
L'avis,
voilà.
Ou plutôt la permission des autres Libanais pour avoir des droits propres. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez dans les régions, vous avez au Liban des régions à majorité sunnite, des régions à majorité chiite, des régions à majorité chrétienne. Et en même temps, pour pouvoir construire une route dans la région chrétienne, il faut qu'on aille au ministère des travaux publics, qui peut être aux mains d'un sunnite ou d'un chiite ou d'un druze, lui présenter une pétition et lui dire s'il vous plaît venez nous construire une autoroute. Et c'est la même chose pour tout le monde. Donc ce qui fait que les Libanais sont en constante ont besoin de l'autre constamment. Et l'autre fait, en fait, c'est un chantage mutuel que se font les Libanais tout le temps. Au niveau de la politique internationale, j'ai donné maintenant l'exemple de la construction d'une route, mais cet exemple s'applique à tous les niveaux. S'applique au niveau de la politique internationale, s'applique au niveau de l'économie, au niveau du social, à tous les niveaux. Nous avons cette interdépendance des Libanais les uns vis-à-vis des autres qui font en sorte que les Libanais ne sont pas à l'aise les uns avec les autres.
Ouais.
Ils sont méfiants les uns vis-à-vis des autres, ils se sentent menacés les uns par les autres, et ils se sentent dépendants les uns des autres, mais dépendants pas dans le sens positif, dans le sens négatif du terme. Ce que nous proposons, c'est justement de calmer cette ambiance de guerre civile. Aujourd'hui, nous avons une ambiance de guerre civile. C'est vrai que nous avons un Liban unitaire au niveau des institutions. Nous avons, si vous lisez les textes de la Constitution, vous dites nous vivons dans le meilleur des mondes. Mais finalement, quand on vient à la réalité, on voit aujourd'hui qu'à cause d'une élection présidentielle, le Liban est à deux doigts d'une guerre civile. Et la guerre civile égale partition, ne veut pas dire autre chose. Ce que nous proposons, c'est de changer cette formule constitutionnelle dans le sens que les communautés, pas dans le sens communautaire du terme, mais dans le sens régional du terme, parce que nous parlons ici de régionalisation, que les régions libanaises, qui sont à 85-90% presque homogènes, puissent avoir une certaine autonomie pour pouvoir gérer leur région au niveau de l'éducation, au niveau de la culture, au niveau de l'économie, au niveau du développement urbain, au niveau du développement humain, à tous ces niveaux qui, en fait, ne touchent à la liberté de personne. Où nous sommes en train de permettre à chaque communauté, à chaque citoyen, à chaque région, de pouvoir s'épanouir sans pouvoir enfreindre à la liberté de l'autre. Donc, ce que nous voulons, c'est l'application d'un seul principe, qui est celui du respect du droit de la différence. Respecter la différence, respecter le droit à la différence culturelle, la différence au niveau du mode de vie, la différence au niveau politique, la différence au niveau de l'éducation. Tout ça, ce sont des thèmes que les Libanais doivent apprendre à vivre avec, pour la simple raison que nous ne pouvons pas continuer à essayer d'obliger l'autre à être comme nous. Mm-hmm. Je parle en tant que chrétien et ceci s'applique également aux autres Libanais. Le chiite ne peut pas m'obliger à être un allié d'Iran, il ne peut pas m'obliger à suivre l'idéologie de la révolution iranienne. En même temps, moi, je ne peux pas imposer ma culture en tant que chrétien. Je ne peux pas imposer ma culture, je ne peux pas imposer ma vision des choses sur les autres Libanais. Nous devons apprendre à se respecter mutuellement, à accepter le fait que le Liban est un pays multiculturel, qu'il ne peut vivre que grâce au respect de cette différence. Et pour consacrer le respect de cette différence, nous avons le régionalisme, qui est un système qui a réussi dans beaucoup de pays, notamment en Espagne, et qui peut être repris au Liban.
Alors, on va revenir sur le régionalisme, parce que moi, je comprends assez ce que vous dites, et je veux dire que c'est une percée intellectuelle dans le problème, qui mérite bien sûr d'être débattue. J'en comprends les avantages, mais il faudra voir aussi comment vous envisagez le rôle de l'État libanais. Il faudra qu'au-dessus de l'ensemble de ces autonomies régionales, il faut qu'il y ait aussi un État qui soit reconnu par tous, qui soit un peu l'arbitre et qui incarne, par exemple, dans les relations internationales, dans un premier temps, ou pour l'armée peut-être, qui incarne des fonctions un peu régaliennes, comme on dirait en France. Alors ça, c'est un problème que vous allez nous expliquer, mais Richard avait timidement levé le doigt pour prendre la parole.
J'ai une question sur ce sujet-là. C'est un sujet... Il faut préciser que c'est un sujet tabou au Liban. Vous avez le mérite de l'évoquer et pas de le banaliser, mais disons que de le rendre plus populaire. Il faut dire que ce sujet, quand on discute avec des Libanais, quand on va, et Dieu sait que nous allons, avec Bernard Anthony, Chrétienté et Solidarité, voir des Libanais, tous les Libanais sont intéressés par ce programme, par ce projet, mais les hommes politiques n'osent pas en parler. C'est un sujet tabou. Samy a eu le courage de développer et de faire connaître ce projet, d'en parler. Il est le seul. Mais on peut comprendre pourquoi c'est tabou d'ailleurs, parce que quand on écoute, c'est là ma question, le problème c'est que c'est l'arabité du Liban, c'est-à-dire que tous ceux qui seront opposés à votre projet vous diront mais vous portez atteinte, parce que c'est une sorte de sacro-saint l'arabité, oui. Personne n'ose mettre ça en doute.
Alors, mais M. Haddad, avant 90 le Liban n'était pas arabe,
c'est là où je veux en venir.
Avant que nous signions l'accord d'armistice qui s'appelle l'accord de Taif, le Liban n'était pas arabe. C'est ça qui est fou. C'est un pays qui change d'identité selon le changement de majorité au gouvernement.
C'est là où je veux en venir, c'est que peut-on appliquer votre projet sans mettre en cause ce que certains Libanais, pas tous, parce que Dieu sait que quand on discute avec des Libanais, beaucoup d'entre eux sautent au plafond si on leur dit que leur pays est un pays arabe. Donc peut-on mettre... D'ailleurs, si certains hommes politiques libanais se sentent obligés à la fin de chacun de leurs discours de préciser, de dire « Vive le Liban arabe », c'est parce qu'il y en a d'autres qui ne le pensent pas. Sinon, vous ne verrez jamais un autre chef d'État d'un pays arabe préciser « Vive la Syrie arabe » ou « Vive l'Irak arabe ». Pas du tout. Au Liban, on le précise en réponse à ceux qui ne le pensent pas. Parce qu'ils savent très bien que la moitié de la population ne se sent pas arabe. Donc est-ce que peut-on... appliquer votre projet sans remettre en cause l'arabité au Liban. Est-ce que le Liban n'est pas un pays arabe et non arabe en même temps ?
D'accord, je vais. Ça, c'est un sujet très important et très très délicat, dans le sens que on peut pas dire que le Liban n'est pas arabe, mais on peut pas dire que un des visages du Liban n'est pas arabe. Voilà. Ce qui veut dire qu'au Liban, il y a des Arabes et il y a des non-Arabes.
Exactement.
Tout à fait. Donc, le Liban est un pays multiculturel. C'est un pays pluraliste dans tous les sens du terme. Au niveau culturel, au niveau de l'identité, au niveau politique, à tous les niveaux. C'est ça, en fait, la conclusion, pour être précis, parce qu'on ne veut pas aussi que les auditeurs comprennent que nous refusons l'arabité dans l'absolu. Au contraire, au Liban, il y a des Arabes. Une grande partie de la population libanaise est arabe. Et quand on parle de l'identité arabe, on parle de quelque chose de très précis, on parle au niveau objectif et personnel. Si on prend les deux écoles de pensée qui définissent l'identité, il y a objectivement une identité arabe, de par l'histoire, la culture, etc. Et il y a aussi, de par la personne, il y a des gens qui se sentent appartenir à l'identité arabe. Donc nous avons des Arabes au Liban dans tous les sens du terme, et nous avons également une partie de la population qui n'est pas arabe, ni objectivement, ni personnellement. Par exemple, les Arméniens. Les Arméniens ne viennent pas de la région arabe, ce qu'on appelle aujourd'hui la région arabe, ont une même ethniquement, n'ont rien à voir avec les Arabes, ils ne parlent même pas la langue, et ils ont une culture et un mode de vie qui est complètement différent. Si on parle des chrétiens maronites, par exemple, qui ont leurs racines syriaques, sont très marquées déjà dans leur rituel religieux, bon, on peut parler de ce sujet pendant longtemps. Mais ce qui est important, exactement aussi dans le respect de la différence, c'est qu'on ne peut pas m'imposer l'arabité, et je ne peux pas imposer mon identité en tant que chrétien, aux autres aussi. Le Liban est un pays multiculturel. C'est comme ça qu'on peut consacrer le respect de l'autre. C'est en acceptant qu'il y a dans ce pays des gens qui ne pensent pas comme moi, et des gens qui ne réfléchissent pas comme moi, des gens qui ont une autre culture, des gens qui ont un autre mode de vie. C'est ça le respect, et c'est ça le message libanais. C'est ça, si vous voulez, quand on parle du message libanais de convivialité, c'est ça ce qu'on voudrait réaliser aujourd'hui et qui n'existe pas, malheureusement.
En résumé, il faudrait donc que le Liban soit un pays arabe et non arabe à la fois.
Un pays multiculturel. Il se définit. On n'a pas la prétention de dire que nous sommes des théoriciens. Au contraire, il y a des gens qui ont écrit des livres sur ce sujet. Il y a des spécialistes de sciences politiques qui ont su définir justement les peuples qui ont plusieurs identités, les différents peuples qui vivent. Qu'on vive au sein d'un seul État. Mmh. Et vous avez d'ailleurs Will Kimlicka, qui est un grand théoricien canadien, qui a écrit ce qu'on appelle un livre qui s'appelle l'identité multiculturelle. C'est un livre très important qui définit justement ces peuples comme les Suisses, par exemple, qui sont Suisses, et en même temps, ils ont une identité propre. Mmh. Vous voyez, la Suisse est un État multiculturel par excellence. Le Canada est un État multiculturel par excellence.
Les États-Unis aussi.
Les États-Unis, c'est un autre cas. Oui. Mais
pourquoi c'est un autre cas?
C'est un autre cas pour la simple raison que les États-Unis ont réussi à éliminer d'une certaine façon les spécificités ou plutôt les appartenances autres que celles de l'État américain. Alors que les Suisses ont consacré l'appartenance, si vous voulez, communautaire des Suisses. Donc, aux États-Unis, c'est plus du sommet, on a imposé à la base certains clichés, alors que les Suisses, c'est eux qui ont consacré l'État central. C'est ça la différence. Les Suisses se sont retrouvés et ont décidé de faire un État, alors que les Américains, c'est le contraire.
Oui, quoi que c'est un petit peu en train de changer aux États-Unis quand même.
Ouais,
ils sont affrontés à des problèmes aujourd'hui qui modifient beaucoup le modèle original WASP, hein, beaucoup, beaucoup.
Mais oui, c'est vrai que le Canada aussi.
Le Canada aussi, le Québec, c'est compliqué. Alors, Renaud, Richard et Samy, s'il vous plaît, revenons à la percée, parce que Richard soulignait tout à l'heure que c'était un espèce de tabou que vous êtes en train de violer. Alors évidemment, ça pose problème, mais honnêtement...
Pardon, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais je me demande parfois si ce tabou n'est pas dû au fait, à la peur de la mise en cause de l'arabité absolue, totale et intégrale du Liban. Je me demande si c'est pas ça qui les gêne dans ce projet régionaliste.
Ces clichés d'arabité, tout ça, c'est une époque qui n'est plus, qui est révolue. Ça, c'était à l'époque des nationalismes arabes. Aujourd'hui, ce dont vous parlez, cette appartenance, ou plutôt cette revendication arabe, n'est plus aussi marquée qu'auparavant. Je pense que les choses ont beaucoup évolué. Je pense que la mode est plus à l'islamisme qu'à l'arabité. En tout cas, pour revenir à notre problème de base, sur notre projet politique pour le Liban, je vais essayer d'entamer une réflexion avec les auditeurs et avec vous. Quand vous avez un État qui contient une société multiculturelle, vous avez trois possibilités. La laïcité.
Oui.
Vous avez le confessionnalisme ou le communautarisme.
Oui.
Et vous avez le régionalisme ou le fédéralisme. quel est le quatrième régime politique qui peut être appliqué à un État? Ce sont ces trois, on n'a pas un quatrième. Soit on a une laïcité, c'est-à-dire une sorte d'homogénéisation, homogénéiser, faire imposer à tous les Libanais un seul livre d'histoire, un seul livre d'éducation civique, un seul des lois homogènes pour tout le monde, imposer les mêmes visions à tout le monde. Et là, on peut pas échapper à la à ce qu'on appelle la discrimination. Soit vous allez aller à l'encontre d'une des communautés, soit à l'autre. C'est-à-dire, si vous voulez faire des lois laïques, civiles, vous allez enfreindre aux droits des musulmans qui réclament certains droits, surtout au niveau du statut personnel, du mariage, de l'adoption, du divorce, tout ça. Vous avez des règles complètement différentes. Si vous voulez laïciser, vous allez imposer les mêmes règles à tout le monde. Comment vous faites pour concilier le mariage chez les chrétiens et le mariage chez les musulmans, par exemple? Comment vous allez faire pour concilier le livre d'éducation chez les uns et chez les autres? Donc vous avez ce problème. Donc nous avons de notre côté, au niveau de Loubna, nous avons éliminé cette possibilité pour le Liban. On ne peut pas homogénéiser le Liban, à moins de faire soit une dictature, soit éliminer culturellement, identitairement, une partie des Libanais.
C'est dictature ou ethnocide, donc c'est difficile quand même.
Le communautarisme.
C'est mal porté. Le
deuxième choix, c'est le communautarisme. Si on élimine la possibilité d'appliquer la laïcité au Liban, ou plutôt ce qu'on appelle l'État-nation au Liban. On va éliminer l'État-nation parce que on peut pas aujourd'hui, comme je l'ai dit, imposer les mêmes règles, la même vision du Liban à tout le monde parce que chacun a une vision différente du Liban. Donc, si on passe au communautarisme. Le communautarisme, en quoi il ne résout pas le problème? Le communautarisme ne résout pas les problèmes parce que communautarisme égale quota. Quota. Chaque communauté a son quota au Parlement, a son quota au gouvernement, a son quota au niveau des institutions constitutionnelles, des institutions officielles. Ce quota, avec le temps, devient, si vous voulez,
révisable
plutôt, et surtout incompatible avec la réalité. C'est-à-dire que la présence chiite en 43 n'est plus la même qu'aujourd'hui en 2007. Si vous gardez les mêmes quotas, vous êtes en train de
léser
une communauté. Et si chaque 10 ans vous allez changer les quotas, quel est cet État qui va survivre avec un changement de quotas chaque 10 ans, 15 ans?
C'est dangereux pour les communautés comme les communautés chrétiennes qui peuvent émigrer, disparaître.
Bien sûr.
Les quotas, c'est la meilleure façon de faire disparaître une des communautés.
Exactement. Maintenant, si vous consacrez... Aujourd'hui, tout le monde, les chrétiens surtout, tous les partis traditionnalistes chrétiens, tous les partis aujourd'hui chrétiens, sont très attachés aux quotas. Même ceux qui sont à l'opposition, que ce soit ceux qui sont à l'opposition ou dans la majorité, sont tous très attachés aux quotas parce qu'ils considèrent que les quotas peuvent les préserver à l'avenir. Or, ce n'est pas le cas. Or, on va arriver à un moment où ces quotas ne vont plus être une sécurité. Comme Atta, en 90, quand les Syriens sont rentrés, ont occupé le Liban, ils ont changé les quotas. Ces quotas peuvent être changés à n'importe quel moment.
De te couper, on commence à en parler, puisque après Taïf, comme l'a dit Samy, on est passé de 55% de chrétiens à 50%, et maintenant on commence à dire divisons par trois tiers, tiers chrétien, un tiers sunnite et un tiers chiite.
Tout à fait.
Et donc c'est une évolution à l'infini.
Donc les quotas ne constituent en aucun cas une sécurité pour le multiculturalisme libanais. Parce que le Liban ne vaut rien s'il n'est que chrétien, s'il n'est que musulman, s'il n'est que sunnite, s'il n'est que chiite. Donc le multiculturalisme libanais ne peut être sécurisé par le quota confessionnel. Pour nous, la seule alternative qui peut être le moindre mal par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce qu'il faut aussi dire que nous sommes le seul pays multiculturel de la région, nous sommes le seul pays où les chrétiens ont une voix dans la région, nous sommes le seul pays où les chrétiens ont une position politique dans la région. comparer par exemple à l'Égypte où monsieur le président Barak nomme les députés chrétiens juste pour dire que qu'il y a des députés chrétiens au Parlement, alors que les chrétiens en Égypte constituent quand même 12% de la population. On leur nomme 4 députés sur 400, sur une assemblée de 400-500 députés. Nous sommes le seul pays où il y a un président de la République chrétien, sur un pays de la région bien sûr, où il y a un président de la République chrétien, où il y a la moitié d'un parlement qui est chrétien, où il y a un chef de l'armée qui est chrétien, où il y a un président de la Banque centrale qui est chrétien. Nous sommes quand même un des rares pays de la région où les chrétiens sont dans une telle position. Donc, la seule alternative qui reste pour nous pour sécuriser les minorités et le multiculturalisme libanais, c'est la régionalisation. Pour que, quel que soit le changement démographique, quel que soit le changement de quota, les communautés gardent une certaine autonomie dans plusieurs domaines pour qu'ils puissent continuer à subsister dans leur mode de vie, dans leur éducation, dans leur identité, dans les régions dans lesquelles ils se trouvent.
Alors, Samy, ça c'est un point très important. Ça mérite évidemment d'être développé. Je pense qu'on n'ira pas au bout de ce développement aujourd'hui, et peut-être on va voir comment avance cette idée dans l'opinion libanaise, et peut-être aussi un effort de réflexion du côté français sur ce que vous proposez, et puis que nous nous reverrons pour parler de cela, voir comment les choses évoluent, parce que c'est très compliqué. Mais cette forme d'autonomie régionale, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il faudrait que le Liban soit réparti en régions relativement cohérentes du point de vue, du point de vue religieux. C'est ça, il y aurait une région avec un territoire, comme on a des régions en France, si vous voulez.
La guerre du Liban a malheureusement joué un rôle positif dans ce sens-là, malheureusement, au prix de beaucoup de sang et beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, les régions sont à 85% homogènes.
Voilà.
Donc ce problème ne se pose pas. Pas trop, bien sûr.
Le découpage, il est déjà fait. Il est déjà fait dans la tête, en fait.
Bien sûr qu'il est déjà fait. Mmh. Il est déjà fait. Maintenant, personne ne veut le reconnaître. Bien sûr.
Le Hezbollah, tout seul,
voilà.
Déjà,
c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, les chrétiens, dans une grande majorité, vivent 364 jours sur 365 dans les régions chrétiennes. Sauf s'ils travaillent autre part. Sauf s'ils ont... de par leur travail, une sortie quelconque.
Alors, vous avez tout à l'heure dit un peu, enfin, très vaguement, évidemment, on ne peut pas être trop précis non plus, là, la nature des autorités, des autonomies régionales, qui serait donc une indépendance dans un centre d'attribution qui d'ailleurs même au nom de la subsidiarité, de la bonne doctrine chrétienne, peut tout à fait s'appliquer. Ce qu'une région peut faire, il n'est pas nécessaire que l'État s'en occupe. Les régions peuvent s'auto-administrer.
Et surtout, les citoyens peuvent sanctionner. Il y a aussi ce qu'on appelle la démocratie. Les citoyens peuvent beaucoup plus facilement sanctionner leurs élus quand ils sont dans une... Quand ils sont, bien sûr, il y a la théorie de la proximité.
Ça veut dire, pour vous, il y aurait donc des...
Un développement démocratique incroyable.
Donc, il y aurait donc à la fois un législateur régional, par région... Et également un exécutif régional, comment ça va se passer? Une espèce de conseil régional ou conseil de l'autonomie, comment ça pourrait se passer par région?
Regardez, une fois qu'on a accepté...
Pardon de poser des questions précises, mais très intéressant.
Une fois qu'on a accepté le principe, nous sommes ouverts sur les détails. On peut aller d'un législatif et un exécutif à même simplifier les choses, faire une sorte de conseil régional, comme c'est le cas en France, par exemple, dans la décentralisation française. Donc, c'est très élastique. Ce qui compte, c'est d'accepter le principe de donner une autonomie aux régions avec des comités élus par les gens de leur région qui ont une certaine proportion des taxes récupérées pour qu'ils puissent avoir les moyens de travailler dans leur région.
Dans le développement. Voilà. Mais ça, je veux dire que ce n'est pas une mauvaise idée, puisqu'au contraire, on verrait très rapidement si l'affaire se mettait en route, qu'il y aurait des régions plus dynamiques que d'autres, et donc il y aurait un caractère plus attractif.
Il n'y a aucun problème à avoir une redistribution, que les régions riches donnent plus à l'État central en vue d'une redistribution que les régions pauvres. Et je pense que de cette façon-là, tous les citoyens libanais seront beaucoup plus encouragés à payer leurs impôts, seront beaucoup plus encouragés à travailler et à respecter les lois, parce qu'ils ne sentiront pas que l'argent qu'ils sont en train de payer est en train d'aller dans les poches de la corruption libanaise. Surtout qu'aujourd'hui, les chrétiens sentent qu'ils sont en train de payer les taxes pour les autres, sont en train de payer l'électricité pour les autres, pour la simple raison que par exemple, les chrétiens sont les seuls à payer certains impôts, sont les seuls à payer l'électricité. Vous savez que les fonctionnaires de l'électricité du Liban ont essayé d'aller récupérer certaines factures dans les régions gouvernées par le Hezbollah. Je dis bien gouvernées parce que le Hezbollah fait un état au sein de l'État au Liban. Ont essayé d'aller récupérer les factures. Ils ont été tabassés. Ils ont été envoyés à l'hôpital par les habitants de la région.
Ce que vous dites confirme ce que dit le père Tabet, prêtre libanais qui préside l'association des écoles catholiques au Liban, dans son interview à L'Homme Nouveau, dernier numéro. Effectivement, il explique que 95% des chrétiens du Liban payent leurs impôts, ce qui n'est pas le cas de tous les autres.
Voilà,
et donc, ils ont l'impression, effectivement, comme vous dites, de payer pour les autres. Voilà. C'est une interview très intéressante. D'ailleurs, ça porte sur les écoles chrétiennes, mais on comprend la politique aussi à travers cette interview.
Par rapport à ça. Alors, question, Samy, parce que ça, c'est un problème intéressant. Tout à l'heure, vous avez cité le cas de l'Espagne. Et vous savez que ce que le principe de l'autonomie régionale, comme ça, c'est le cas qui semble se dessiner en Espagne, peut aboutir très vite, peut être très vite l'antichambre de la sécession, s'il n'y a pas un pouvoir fort. Or, ce n'est pas le cas de l'Espagne. L'Espagne, les institutions étatiques espagnoles ne sont pas comme les institutions étatiques françaises, pour le moment. Parce que qu'est-ce que va devenir la France? On verra bien. Mais s'il n'y a pas de pouvoir central, régulateur, et éventuellement aussi réprimant les dérives, on risque d'avoir une partition de fait et donc des formes de sécession.
Je vais vous faciliter la chose. Nous sommes à fond en faveur d'un État fort. Un État fort, nous sommes pour une armée libanaise unique, et non pas des armées dans chaque région, qu'on soit clair, une seule diplomatie, et nous sommes en faveur de la neutralité du Liban pour justement empêcher les ingérences extérieures. Nous sommes en faveur d'une neutralité, ça c'est une position historique du parti Kataeb, c'est une position historique des chrétiens, pour justement ne plus avoir besoin de cette diplomatie, ne plus avoir de problème au niveau de la politique étrangère entre les Libanais, et que les Libanais puissent enfin avoir la paix. Ce petit pays qui est un rêve pour beaucoup de gens, dont la majorité des personnes qui l'ont visité en gardent un très beau souvenir, puisse de nouveau être ce qu'on appelle la Suisse du Moyen-Orient, puisse de nouveau être cet exemple de démocratie, de vie paisible, de convivialité, de relance économique, de puisse de nouveau être le centre culturel et économique de la région du Moyen-Orient. C'est en justement consacrant cette neutralité au niveau de la politique étrangère et de défense. Ce qui fait que quand on conjugue le régionalisme avec la neutralité, vous voyez combien le Liban aura un potentiel économique et politique énorme, parce que les Libanais entre eux se sentiront à l'aise les uns vis-à-vis des autres. Ils ne se sentiront plus en concurrence les uns avec les autres, mais en coexistence pacifique les uns à côté des autres. Et en même temps, au niveau national, ils n'auront plus à se chamailler sur les questions étrangères, parce que le Liban sera un pays neutre. Donc, si on conjugue ces deux notions de neutralité et de régionalisme, nous aurons un Liban ravivé, un Liban qui est de nouveau un exemple pour tous ses voisins.
Alors, je comprends que le processus d'autonomie que vous envisagez, sur lequel vous réfléchissez et que vous pensez maintenant vous proposer à l'opinion libanaise pour qu'elle y réfléchisse aussi, ne peut être, comme on l'a dit, ne peut être garanti que par un État fort.
Tout à fait.
Mais pour ce qui est de la neutralité libanaise ne peut être que le fruit d'une garantie internationale.
Tout à fait.
Alors la question c'est quelle garantie, où trouver la garantie, si ce n'est, est-ce que bon, abandonner la protection syrienne pour la protection américaine ou la protection israélienne contre la protection iranienne, là c'est
ce que nous proposons pour donner une solution pratique à ce que vous posez. Le président du parti, qui est le président Gemayel, a proposé, a envoyé une lettre au secrétaire général de l'ONU, monsieur, qui était à l'époque monsieur Kofi Annan. Il lui a proposé d'installer au Liban une institution internationale qui est celle du dialogue. Comme vous avez l'UNESCO, comme vous avez l'ESCOA, comme vous avez toutes ces institutions internationales pour l'aide à la santé, à l'éducation, la culture, tout ça, qui est un centre du dialogue international et que le Liban en soit la base et que tous les pays du monde viennent au Liban pour travailler pour le dialogue dans le monde entre les civilisations, un dialogue entre les cultures, entre les religions. Et c'est ainsi que le Liban peut devenir un centre de dialogue, un centre de paix dans le monde. Donc ça, c'est aussi une façon de consacrer cette neutralité du Liban.
La garantir, lui donner des garanties.
La garantie internationale.
Encore une fois, c'est le droit est une chose, évidemment, dont la revendication est éternelle, comme disait le grand Bossuet. Toutefois, si le droit n'est pas épais sur la force, et il tient pas très très loin. Il nous reste 8 minutes, à peine 8 minutes. Hein. Donc je vais donner tout de suite donc, le site de l'association qu'anime notre ami Sami Gemayel. C'est très facile. Alors oui, c'est facile. C'est Lubna Nuna. Alors là, je vais quand même épeler pour les auditeurs français. Lubna Nuna, c'est Lubnanuna. .org. Lubnanuna.org. Là, vous trouverez toutes sortes de détails. Si vous souhaitez écrire à Sami Gemayel ou joindre cette association pour lui poser des questions, après tout, vous pouvez être comme moi des gens curieux, ben c'est lubnanuna.org. Attendez, vous avez fait des grands gestes, Sami, là je suis perdu. Merci. Et alors, vous avez également, il y a une association en France, hein, c'est ça, une association de droit français, donc qui reprend votre argumentaire et qui est votre interface dans notre pays. Donc c'est en un seul mot Liban pluriel. Alors comprenez bien le pluriel, un peu comme vous l'expliquez Sami Gemayel, hein, peut-être pas la façon dont vous le lisez dans les journaux français ou dont vous entendez parler sur les télévisions. Liban pluriel, Liban, L-I-B-A-N, pluriel P-L-U-R-I-E-L, @gmail.com. Donc je répète, le site internet où vous allez.
C'est une adresse.
J'attends. Je redis le site internet déjà où vous pourrez voir un peu comment se développe cette proposition intéressante et comment elle va peut-être, je l'espère, vivifier le débat politique libanais. C'est donc www.lubnanuna.org. Et puis le courriel de l'association Parole en France, pas l'association qui est là pour réfléchir, etc. C'est libanpluriel@gmail.com. Richard, puisque vous vraiment vouliez parler, qu'est-ce que vous vouliez dire?
Non,
c'était ça pour donner
je pensais qu'il y avait une erreur sur
les adresses. Voilà. Donc adresses. Le problème, c'est ça, c'est le problème de.
Moi, j'avais quelques questions. Si on a encore quelques minutes.
Encore trois, oui, que quatre minutes. Oui,
d'actualité. En fait, je vais. Ce sont des questions d'actualité que beaucoup de sympathisants de Chrétienté et Solidarité me posent, que beaucoup de Français se posent par rapport à l'actualité. Donc, on sait qu'il y a des élections présidentielle. Je rappelle aux auditeurs qu'au Liban, le président de la République est élu par les députés, donc par le Parlement. On ne va pas rentrer dans les détails un peu compliqués, mais c'est d'actualité. Et Nous, et puis on parle de risque de guerre civile, comme Samy l'a rappelé, dès qu'il y a une élection. On entend par-ci par-là que les uns ou les autres se réarment. On sait que, alors beaucoup de gens me disent, mais alors, vous savez, chaque fois qu'il y a une réunion de notre association, les gens viennent me dire, mais alors ça va exploser, mais alors ça va recommencer la guerre civile. Parce qu'ils entendent effectivement à droite à gauche que les uns et les autres se réarment. Alors je sais que les Qataïs ne se réarment pas, d'après ce que nous entendons, les forces libanaises non plus.
Les forces libanaises, c'est Samir Jaja.
C'est Samir Jaja, mais qui sont alliés, hein, donc ils sont, c'est un peu le même mouvement maintenant, ce sont des alliés. Y a-t-il un danger, court terme, parce que votre projet, bon, vous avez développé tout le long de cette émission un projet très intéressant, mais dans le très court terme, là, d'ici quelques semaines, y a-t-il un danger? Les Français amis du Liban sont inquiets. Y a-t-il un danger de guerre civile au Liban? Et est-ce que n'est-il pas un peu naïf de ne pas s'armer lorsque les autres s'arment?
Samy Gemayel, grande question. Alors vous avez trois minutes pour y répondre.
Vous savez, le Liban est un pays qui est passé par tellement de malheurs et de catastrophes dans son histoire que nous refusons catégoriquement le recours aux armes. Nous refusons catégoriquement tout conflit armé parce que même si finalement l'un des deux va gagner, l'une des deux parties va gagner, finalement on sera tous perdants parce que vous savez, surtout les chrétiens ne supporteraient plus encore une guerre et encore des morts. Donc nous refusons de porter des armes, et s'ils veulent porter des armes, ils le porteront contre personne. Donc on va pas leur donner cette excuse du tout. Donc voilà, c'est pour confirmer que nous ne sommes pas en train de nous armer, nous sommes des vrais chrétiens qui refusons le recours aux armes.
Belle réponse qui va nous servir de conclusion temporaire de ces émissions, parce que je pense que cette affaire aura intéresse beaucoup de nos compatriotes ici en France, et je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler sur cette antenne, avec, je l'espère, la présence de Samy Gemayel, qui nous a fait aujourd'hui beaucoup d'amitié de venir, et il va retourner très bientôt dans son pays pour faire le travail qu'il estime devoir y faire. Et nous souhaitons bien sûr tous nos vœux l'accompagnent. Oui, vous avez encore un mot, allez-y, encore un mot. Vous avez encore 30 secondes.
Je vais profiter de cette occasion pour dire aux Français qui nous écoutent, aux auditeurs, que les chrétiens du Liban comptent beaucoup, et non que la France, en fait. C'est ça ce qu'il faut préciser. Nous n'avons que la France. Nous n'avons les Syriens sont contre nous, les Israéliens sont contre nous. Historiquement, c'est la France qui nous a toujours supportés, qui nous a toujours aidés. Et dans ces moments difficiles, nous comptons encore sur la France pour qu'elle joue de nouveau un rôle fondamental au Liban. Et surtout, un rôle aux côtés des chrétiens du Liban.
Eh bien, que les Français vous entendent. Merci Samy Gemayel de cet entretien que vous avez accordé. Merci Richard Haddad d'avoir participé à cette émission et d'avoir d'y avoir contribué. Je remercie bien sûr, je salue les auditeurs de Radio Courtoisie. Je souhaite bien sûr que Dieu protège le Liban et que Dieu nous garde tous.